Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 70. Ah, mon cher Daz.
Bonsoir Salman, comment vas-tu?
Écoute, je vais très très bien, je suis content d'enregistrer un nouvel épisode de DLT.
Oui, on ne s'arrête plus, can't stop, won't stop. Hein.
Le podcast qui, tous les mercredis, explore l'univers de la musique, Daz.
Oui, sauf quand ce sont des mercredis fériés.
Ah mais oui, mais on est quand même diffusé.
C'est vrai, donc non, en fait je retire ce que j'ai dit.
Oui absolument, on est là tous les mercredis, enfin non,
un mercredi sur deux.
J'essaie de trouver des catchlines un peu, tu vois, pour faciliter les choses, pour fidéliser les gens, tu vois, c'est le marketing.
Est-ce qu'il y a besoin encore de...
Non, je sais qu'on a notre petit cercle de fans.
On a une audience.
Ouais, mais c'est important d'ouvrir, tu vois,
c'est vrai,
cette émission.
C'est
vrai. D'ailleurs, DLT, c'est l'ouverture de manière générale, Daz.
Très, 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 très vrai, Salman, tout à fait. Je me permets même de souligner le fait
qu'est-ce qu'il va dire encore ?
Aujourd'hui, nous recevons... Oui. Encore un artiste ?
Oui, mais ça je suis content.
On ne s'arrête plus sur les artistes.
On reçoit beaucoup d'artistes puisqu'on est avec Nit Daz.
Oui, bonjour Nit.
Corentin.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, oui, très bien et vous ?
Bah écoute, on est,
ça va, on est ravis
de te recevoir.
On est ravis de te recevoir.
Bah moi aussi je suis ravi d'être là.
Alors Nit, dis-nous tout. Vas-y, c'est parti.
Allez, c'est parti, on te laisse en roue libre.
Alors je suis né.
Oui.
On commence.
Non, rassure-toi, je vais te présenter rapidement avant qu'on discute plus en profondeur de ton expérience, de tes aventures musicales, puisque tu es musicien. Oui. Compositeur, producteur, interprète, initialement violoniste.
Exactement.
Formé au conservatoire.
Oui. Tout est vrai.
Tout est vrai. C'est un truc qu'on retrouve régulièrement, mine de rien, parmi
ces
les
derniers
gens qu'on
temps,
reçoit.
Ouais.
Cette formation initiale un peu plus académique au sein du conservatoire, puis ensuite une ouverture vers un univers plus pop, puisque c'est ton cas aussi, les musiques électroniques, la musique pop. On pourra en parler brièvement, c'est des trucs dont on a déjà parlé, mais peut-être quand même ce que tu as l'impression que ça t'a apporté, ça peut être quand même intéressant. Ce qui est certain, c'est qu'après cette formation, tu vas étendre ton univers sonore en travaillant notamment en radio. Tu vas passer chez Nova, chez Radio Campus. Je sais que c'est des expériences qui ont été marquantes pour toi, pour ton ouverture musicale, entre autres. Et puis, en parallèle, en tant qu'instrumentiste, tu joues avec plein d'autres gens. Et puis, ça t'amène à faire des rencontres, notamment la rencontre de Juliette Armanet, pour laquelle tu joues du clavier en live. Tu l'accompagnes sur toutes ses tournées. Une grosse star de la pop.
On peut le dire.
Tu vas coproduire aussi autres rencontres des albums avec Sébastien Tellier, notamment Domesticated, et puis après sur un album un peu plus particulier, puisque c'est un album de reprise que vous avez travaillé ensemble, qui s'appelle Simple Mind. Et puis surtout, en parallèle de ces multiples aventures, Daz.
C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal.
Il y a beaucoup de gens qui s'arrêteraient déjà là.
Ouais, c'est pas mal. Hein,
ça va, bon, bah ça va.
Ouais.
Et pourtant,
tu mènes un projet artistique. Truc très simple, tu mènes un projet artistique en ton nom, donc sous le nom de Nit. Un projet, de pop électronique expérimental. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu aimes voir ta musique.
Ouais, c'est toujours dur à définir et tout, mais j'ai l'impression que ces trois mots ensemble,
ça marche.
Ouais, ça marche et ça correspond assez bien, j'ai l'impression, à ce à quoi ça ressemble.
Et en 2017, avec ce projet Nit, ce projet personnel, tu sors un premier EP qui s'appelle Dessous de plage. Et puis là, il y a quelques jours, alors ça sera diffusé plus tard, c'est sorti quel jour exactement ?
Il n'y a pas longtemps.
Hein. L'album est sorti le 26 avril.
Le 26 avril.
2024, au cas où ce soit diffusé en 2030 ou 2030.
C'est
bien de préciser. Techniquement, c'était il y a 4 jours.
DLT, c'est du patrimoine, peut-être qu'on sera découvert dans 40 ans, qui sait.
Des archives de l'INA, du coup.
Oui, bien sûr.
Étape importante pour toi, puisque c'est ton premier album que tu signes sur le label Record Makers. Que tu connais bien ça. On en discutera aussi de ce rapport avec l'entourage, c'est un truc qu'on aime dans cette émission, pas parler du fait que c'est un métier, tout simplement, d'être musicien. Mais ce que je vous propose, j'ai assez parlé, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première partie où on parle justement un peu de ce parcours, comment on se construit un parcours de musicien, comment on rentre dans le sérail d'ailleurs, même d'une certaine manière musicale, comment on fait des rencontres.
Déjà, est-ce que tu considères que t'es dans le sérail, déjà?
c'est un vrai milieu, la musique.
Bah oui, techniquement c'est un milieu parce que quand ça devient un métier, c'est ton quotidien, donc t'as des collègues un peu, enfin des gens que tu retrouves, que tu recroises et tout, donc oui. Après je sais pas s'il y a vraiment de sérail, en tout cas je sais pas, moi j'aime pas trop cette idée là, mais oui, forcément, du coup il y a une espèce de scène un peu de connivence artistique avec différents musiciens, différentes musiciennes, et du coup tu te retrouves un peu dans un truc, oui, qu'on pourrait appeler plus une une scène qui a un sérail, mais où forcément tu recroises un peu
les mêmes gens.
Les mêmes gens. Enfin, il y a voilà tout un écosystème du coup autour de. En tout cas, le mien, c'est voilà, enfin un mélange de trucs de pop musique et de choses plus aventureuses et plus expérimentales. Mais quand
toi t'as décidé d'aller là-dedans, t'avais déjà l'esthétique sonore que t'as aujourd'hui ou
non? Parce que je pense qu'elle se forge aussi avec avec les rencontres que tu fais. Forcément, c'est en même temps ton esthétique de début qui te fait rencontrer des gens avec qui tu partages des choses, et ensuite elle se complète comme ça, elle s'affine avec les rencontres que tu fais, quoi.
Mais je veux dire, les premiers projets c'était déjà dans cette vibe là c'était pop
mes projets
électro.
Perso,
ouais,
je pense que je faisais peut-être des trucs un peu plus expérimentaux à un moment, parce que ça correspondait à la scène que j'ai rencontrée quand je suis arrivé à Paris il y a une vingtaine d'années maintenant, où du coup c'était plutôt des gens qui organisaient des concerts dans des caves de Belleville et des trucs un peu comme ça. Donc je me suis retrouvé par amitié avec je faisais déjà un peu de musique un peu plus bizarre, un peu plus chelou à l'époque, et donc je me suis retrouvé avec copain avec ces gens-là, et du coup on a fait plein de trucs dans ces univers-là un peu plus expérimentaux. Et puis oui, après du coup, je sais pas, le parcours, d'autres rencontres, d'autres trucs, d'autres envies aussi font que on évolue, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien l'idée d'évoluer dans sa pratique aussi, quoi, de pas rester figé dans une case particulière.
C'est assez marquant l'évolution sonore. D'ailleurs, on écoutera des extraits entre ton premier EP et ton premier album. On sent que c'est pas exactement la même période pour toi, effectivement, et pas les mêmes volontés, même, je dirais, et que t'as peut-être été marqué d'ailleurs par des expériences avec les autres gens que t'as croisés. Je pense notamment à Sébastien Tellier. Mais avant qu'on discute de ça, parce que je trouve ça toujours intéressant, ces profils. On pourrait à la fois, comme tu sors ton premier album, te qualifier d'artiste émergent, et en même temps, en fait, t'as déjà un background relativement solide dans le milieu de la musique. Et ça, je trouve toujours étonnant cet aspect-là, tu vois, se dire, on a un peu le fantasme du mec qui débarque à 20 ans et qui tout de suite... Et en fait, je sais pas si c'est la norme en réalité. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se construisent aussi, et on rappelle pas assez souvent qu'un univers artistique, ça se construit aussi.
Bien sûr.
Puis en vrai, je pense qu'on peut être débutant à 80 ans aussi. Enfin, je trouve ça, en fait, de penser les choses comme ça aussi. Enfin, qu'il n'y a pas un truc de, si tu rates le coche de à 20 ans,
c'est foutu.
Ta carrière machin, et c'est foutu. En vrai, je sais pas, sans je dis ça sans médisance, mais je pense qu'on a vu aussi plein de gens qui explosent à un moment assez jeune, et puis après le truc s'essouffle ou ils font d'autres choses, mais du coup on les attend plus pour ça parce que du coup ils correspondent plus à ce qu'ils ont donné quand ils avaient 20 ans. Donc non, en vrai, enfin je sais pas, moi je trouve ça plutôt sain de pouvoir se dire que j'espère même qu'à 70 ans il y a encore des gens qui peuvent être débutants. Enfin, je trouve ça plutôt bien.
En parlant de débutant, toi, on l'a dit, tu passes par le conservatoire, le violon. Est-ce que tu considères encore aujourd'hui que ça a été une expérience essentielle pour ton parcours musical?
Oui, parce que l'apprentissage au conservatoire, il te donne un peu des bases de trucs. Après, moi, j'ai jamais été... j'ai suivi le cursus. Bon, quand t'es enfant, tu te poses pas trop de questions, quoi. Du coup, tu vas à tes cours de violon. J'ai des cours d'orchestre aussi, pour le coup, qui ont été assez importants pour moi, parce que c'est apprentissage à jouer avec les autres, à écouter les autres aussi. Et j'avais un super chef d'orchestre qui faisait ça très bien, qui nous éduquait très bien là-dessus. L'oreille, en tout cas. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, non, c'est ça. C'est hyper important pour ça, mais assez vite. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire 15 ans de conservatoire. Mais si je me suis dit que je...
Assez vite.
Non, je veux dire, c'est pas passer l'enfance. Je sais pas, tu commences à 6 ans le violon.
Ouais.
Déjà, tu vois, jusqu'à 15 ans, c'est déjà long. Mais c'est pas forcément un moment où t'es en âge de choisir, dire je veux faire ça ou je veux pas faire ça.
Enfin, toi, à 15 ans, après quasiment 10 ans de violon, t'étais toujours focus violon ou...
Non, justement, du coup, tu vois, la préadolescence, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer à faire ça. Mais du coup, ça m'avait ouvert les oreilles sur plein de trucs. Et j'ai eu des profs super aussi qui m'ont incité à aller faire d'autres choses, à aller avoir des groupes un peu machin, enfin, à découvrir des trucs. J'étais toujours à l'écoute de trucs. Moi, je commençais à composer des trucs sur ordinateur un peu machin, sur l'ordi de mes parents. Et du coup, mes profs étaient toujours hyper, hyper à l'écoute de ça. Donc, c'est souvent les profs
qui t'aident ou au contraire qui te contraignent un petit peu.
Oui,
parce que s'ils comprennent pas.
C'est ça. C'est que j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont accompagné dans le truc. Et puis assez vite, oui, ça m'a emmené dans tout ce qui n'est pas la musique classique. Quoi.
Parce que justement, ce répertoire qu'on imagine classique, que tu as exploré dans un premier temps en t'inscrivant au conservatoire, c'était un truc avec lequel tu étais déjà familier à la maison, des choses comme ça, ou c'est vraiment pour la pratique instrumentale, tu as découvert ce répertoire
Pourquoi le violon? C'est ça la question.
Ah, ça fait demander à mes parents. Ça,
c'est, voilà. Non, mais c'est intéressant.
Mais c'est ça, en fait, quand t'as 6 ans.
On te met un violon dans les mains, on dit tu
ouais,
feras
voilà,
du violon.
Enfin, ouais. Je pense, je sais pas, c'est une histoire de. C'est là où il y a le moins la queue, tu vois, au moment de l'inscription à l'école de musique, quoi. Et du coup, bon, bah, très bien, ce sera du violon parce qu'il y avait moins de monde à cet endroit-là, quoi. Et que la prof avait l'air sympa, donc.
C'est marrant parce qu'on en parlait avec Lola Frichet la dernière fois, justement, que le violon, c'était plutôt un instrument qui était où on favorisait les filles. Tu vois, ou en tout cas, on incitait plus les filles à aller sur le violon.
C'est vrai qu'on évoquait le fait que Lola déplorait qu'il y ait quand même parfois une approche des instruments
un peu genrée.
En disant, bah, tel instrument c'est plus pour les meufs, tel instrument c'est plus pour les mecs. C'est un truc, toi, que t'as déjà pu observer, ça, ou?
Je l'ai pas, enfin, moi, je l'ai jamais, éprouvé, je l'ai jamais ressenti. Enfin, je pense que, en tout cas, moi, dans mon cursus au conservatoire, c'était assez mélangé, quoi, en tout cas en violon, et puis en orchestre ça se mélangeait d'autant plus, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs un peu malgré tout qui restent un peu genre, et c'est dommage, mais bon, enfin, c'est pas ça qui a déterminé le choix de mes parents de m'inscrire au violon ou non, en tout cas, quoi. C'était un peu
mais eux, ils avaient une culture musicale, ils aimaient le violon de base, le classique, ce genre de truc, ou
bah, mon père avait fait du violon quand il était petit, un peu, donc il y avait toujours un violon à la maison, mais il a jamais continué plus que ça. Et non, bah, enfin, des mélomanes qui écoutaient de la musique, mais sans plus, quoi. Mais oui, non, si, j'ai toujours l'impression d'être un peu baigné de musique.
Et donc 6 ans, paf, un violon.
Et paf, un violon, et puis voilà, et puis du coup tu travailles tes trucs, et c'est assez ingrat, le violon, comme instrument, quand même. Très longtemps, c'est faux.
C'est vrai qu'il n'y a pas de frettes sur le manche, la justesse des notes, c'est terrible.
Il devrait faire des violons avec des frettes, quand même. Mais non, c'est assez ingrat comme instrument, parce que ça prend du temps pour pouvoir arriver à se faire plaisir et à jouer de la musique... À jouer de la musique, tout simplement.
Déjà.
Donc,
ton ouverture à un autre répertoire, ça se fait comment? Parce qu'en fait, à la maison, vous écoutez d'autres trucs, ou toi, dans ton adolescence, tu découvres d'autres trucs, et très vite, tu te dis, comment je peux arriver à mêler à la fois l'apprentissage classique que j'ai eu et tout ça?
Bah, je pense que c'est deux trucs. Il y a, d'une part, je pense, de découvrir chez mes grands-parents, chez des oncles et tantes, des piles de vinyles, du coup, et puis tu vois, enfin, un peu pré-ado, à commencer à regarder un peu, être attiré par les pochettes des disques, et puis à écouter des trucs, enfin, bon, en l'occurrence, c'était moi, j'ai des trucs de Vangelis, de Jean-Michel Jarre, enfin, et tu vois, toute cette
la musique électronique, tout de suite, ça t'a marqué,
musique électronique, mais cette musique électronique pop, enfin, de cette époque, enfin, qui était pas mon époque, mais de l'époque de mes oncles et tantes et de mes grands-parents. Et ça, oui, je sais pas, assez vite, du coup, ça m'a fasciné, du coup, tout ce truc qui finalement se rapprochait un peu, tu vois, je sais pas, quand on parle de Vangelis, les musiques de films, ou Jean-Michel Jarre aussi, il y a une manière très classique de composer la musique. Donc, du coup, j'y trouvais quelque chose que je connaissais. Et en même temps, avec des textures que je connaissais pas, je dis, ah putain, on peut faire ça avec des synthés et tout. Et assez vite, ça m'a mis dans la fascination de l'électronique et des synthétiseurs et tout ça. Et donc, je sais plus, assez vite, je crois que c'était l'anniversaire de mes 13 ans ou 14 ans, je dis, bah, je veux un synthétiseur pour mon anniversaire, quoi.
T'as eu quoi?
J'ai eu un Alpha Juno.
Oh!
Très bon synthé que j'ai toujours, j'utilise toujours, et qui est toujours dans mon studio, que j'emmène en concert aussi.
Donc,
qui a fait de la tournée aussi.
Vintage et solide.
Ouais. Ah, il a dû être réparé 2-3 fois, quand même. Ouais. Mais non, il a quand même bien tenu. Et donc, oui, c'est ça un peu qui m'a mis le truc, enfin, genre, pour mon premier synthé, Alpha Juno, et assez vite, du coup, je me suis acheté aussi mes parents m'ont offert parce qu'on parle matos, un S1000, un Akai S1000, qui était un sampler. Et aussi, le truc, hein, aussi qui m'a amené à produire de la musique, c'est que mon père avait un Atari. Okay. Parce que mon père est informaticien et donc il avait un Atari, donc c'était déjà plus un truc de l'époque et tout, c'était dans les années 90, mais sauf que sur les vieux Atari il y avait des ports MIDI,
bien sûr,
et donc super, il y a du MIDI, donc je peux, et j'ai trouvé un Cubase sur internet que j'ai pu mettre sur disquette et installer Cubase sur le vieil Atari de mon père.
L'Atari, il est resté très longtemps en studio,
Bah oui, il y a plein de musique des années 90 qui ont été encore produites sur Atari, et donc j'ai commencé à faire ça, quoi, mon premier studio dans ma chambre quand j'avais 14-15 ans, c'était l'Atari de mon père avec Cubase branché sur le Juno avec un S1000, et comme ça je pouvais faire et de l'audio dans le S1000 et du synthé. Voilà.
Il y a un switch numérique à un moment qui se fait où tu passes en full MAO avec un séquenceur sur ton ordinateur.
Enfin, bon, après, du coup, tu as le nouveau PC à la maison des parents et tout, et tu digues un peu les nouveaux logiciels, un peu les nouveaux trucs. Et la suite, mais c'est vraiment l'Atari un peu qui m'a branché dans le côté home studio et production musique.
C'est vachement avoir ça dans les années 90, c'était pas mal quand même. Hein,
bah c'était super, j'étais trop content de découvrir ce.
Par rapport à tous les gens qui se sont formés sur EJ sur PlayStation.
T'avais
un Atari à la maison plus un synthé et tout.
Ça t'ouvre des portes pour ensuite. C'est vrai que c'est tellement lié à comment on produit même de la musique encore aujourd'hui, quoi. Donc, t'as dû apprendre des bases qui te servent encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, complètement. Bah oui, les trucs de,
le piano roll et
la souris. Bah oui, exactement, ouais. De toute façon, c'était que du piano roll à l'époque, c'était que du MIDI, donc. Mais donc oui, voilà, un peu, je sais plus, j'ai peut-être digressé le parcours du truc, quoi.
Et parce que, alors, il faut vraiment qu'on parle de ces histoires d'expérience en radio, mais avant même ça, parce que là, tu deviens plus adulte, entre guillemets, est-ce que tu commences à partager la musique, c'est-à-dire à la fois, pourquoi pas même sortir des trucs sur Internet, ou même jouer avec des gens? Comment ça se passe, ce parcours hors du conservatoire, je veux dire,
à cette époque-là et tout, parce que du coup, pareil, ma prof de violon de l'époque était super aussi, et voyait très bien que le violon, c'était pas le violon classique, en tout cas c'était pas mon truc, donc elle m'a dit vas-y, comme tu fais des trucs un peu chez toi dans ta chambre et tout, trouve-toi un groupe machin, et donc au lycée, après, du coup, tu vas rencontrer d'autres copains musiciens, et puis on a monté un groupe de musique, et
puis oui, c'était style, du coup, c'était toujours électronique.
Nous, à l'époque et tout, c'était un peu chanson chanson, guitare, accordéon, un peu et tout.
Accordéon.
C'était l'époque, c'était ça le top du top. En tout cas, dans mon bahut à l'époque.
En quelle année à peu près?
Milieu des années 90, fin 90, quoi.
Ouais, donc l'accordéon, c'était déjà un statement, tu vois.
Fallait assumer déjà.
Mais c'est marrant, c'est que du coup, il y avait ça, et en même temps, moi, je rentrais chez moi le midi, et j'écoutais les Daft Punk, et j'écoutais R, j'écoutais Cassius, j'écoutais Phoenix, donc du coup, j'avais un peu les deux, enfin, tu vois, j'avais ces groupes de musique avec qui on jouait des trucs, parce que c'était ça les trucs qu'on jouait à l'époque, quoi. Mais j'avais toujours cette culture électronique et tout qui était là à fond, et j'allais à la médiathèque de ma ville pour choper les CD des dernières nouveautés de musique électronique, de French Touch et machin et compagnie. Et du coup
et à un moment donné tu t'es dit qu'est-ce que je fous dans ce groupe, en fait, ou
Je sais pas, c'est dur d'avoir un jugement sur sur soi du passé.
On est là pour faire ta psychanalyse. Est-ce que tu, ce décalage que t'observais, est-ce qu'à un moment donné c'est devenu un truc où tu t'es dit j'ai plus trop d'intérêt en vrai pour ce style de musique?
Je pense qu'assez vite et tout, je me suis dit la musique que je préfère faire, c'est celle de sur l'ordi avec des synthés, avec
parce que,
des
parce
trucs
que,
quoi.
Quand t'étais dans le groupe chanson accordéon, toi tu jouais quoi comme instrument à ce moment-là?
Moi je faisais de la guitare et je chantais.
Ok. Ouais. Ok.
Ah, tu chantais.
Ouais, je chantais.
Ah, c'est un truc que tu fais plus trop aujourd'hui.
Non, mais je pense que c'était, tu vois, c'est un truc un peu. C'est des expériences formatrices comme ça un peu, du coup, donc tu fais avec tes copains ou t'es content de faire un truc. Mais à ce moment-là, j'avais pas. Je me disais, c'était un loisir, en fait, de faire ces groupes un peu de chansons et tout avec les copains, mais j'avais déjà cette idée de me dire, j'ai envie de faire du son plutôt en studio avec les outils de matos et tout, quoi. Ouais.
Comment ça se passe alors? Parce que tu te retrouves à bosser en radio, mais pas en tant que musicien. Est-ce que c'était un truc où tu t'es dit, je vais peut-être faire un autre métier et ça restera un loisir, la musique, ou déjà dans ta tête il y avait l'idée de devenir musicien professionnel? Pourquoi tu te retrouves à faire d'autres métiers? Fallait juste gagner peut-être aussi de l'argent, j'en sais rien.
J'ai fait une fac de musicologie aussi. Okay. après le bac, et Et là, ensuite, bah oui, la fac de musicologie, du coup, bah, bon, bah, t'es là, a priori, pour retrouver un métier ensuite, quoi. Enfin, c'est un peu le principe du truc, en théorie. Et bah, la plupart de mes copains sont devenus profs de mes copains de fac sont devenus profs de musique. Mais bah, c'est un truc qui m'intéressait pas trop. Et du coup, il y avait un peu la voie de, bah, toujours de la production en studio, qui était toujours une voie possible, mais tout en sachant que c'était pas forcément un truc où c'est pas un diplôme qui te donne accès à ça. Et la radio était un bon truc aussi de, qui mélangeait un peu les deux, quoi. Enfin, de truc d'ouverture musicale et de.
Surtout et ouais, chez, et puis aussi chez, de. Chez Nova, du coup, parce que c'était ouais. Ta cible dès le départ. Tu te dis, je veux rentrer chez Nova ou.
Non, c'est, tu vois, pareil, en faisant le truc, du coup, je me suis trouvé un stage chez Nova, tu vois, après ma licence, pendant mon master de musicologie. Et c'est là où, je sais pas, je me suis senti bien tout de suite, tu vois, dans le j'étais stagiaire à la discothèque de Radio Nova, du coup, dans les locaux historiques, la rue du Faubourg Saint-Antoine. Mmh. Et donc, bah, je passais mes journées entourées de CD et je recevais les CD promos, des envois des maisons de disques, et je faisais le pré-tri pour les programmateurs musicaux de.
D'accord.
Ah oui, donc Max et Emile à l'époque.
C'était de l'administratif presque.
Bah, non, parce que c'était
de la. C'était de la musique quand même,
ouais. C'était
de la sélection musicale, quoi. Tu vois, je recevais les CD promo, hop, j'ouvrais l'envoi, machin, j'écoutais le CD. Je disais, bon, ça, c'est pas ouf, donc ça va à la poubelle.
Ah ouais, c'était toi le filtre.
J'étais le premier filtre, ouais.
Ok.
Et je faisais après une petite sélection, genre, bon, bah, ça correspond à peu près à la couleur d'antenne. Et du coup, tu vois, je faisais une présélection pour les programmateurs ensuite. Ouais. Et puis après, du coup, je passais ma journée, bah, dans la discothèque de Radio Nova qui ont plein de trucs, et du coup, bah, j'ai découvert plein de choses et je me suis fait une bonne partie de ma culture musicale à ce moment-là, ouais.
C'est cool quand même.
C'était trop bien. Du coup, je me dis, bah, c'est toi, j'ai envie de faire ça tout le temps comme job.
T'as tout de suite senti que ça jouait sur la musique que t'avais envie de faire, que tu produisais à la maison en parallèle.
Ouais, bien sûr, parce que du coup, tu découvres des trucs et tu dis, ah, mais ce son, c'est ouf et tout, j'ai absolument envie d'arriver à faire ça aussi, quoi. Enfin, c'est des moteurs aussi, quoi, d'écoute. Enfin,
mais du coup, parce que moi je reviens sur le côté filtre pour tous les musiciens qui ont potentiellement envoyé un CD et qui ont jamais eu de retour. La couleur de la radio, c'est quelque chose t'étais briefé là-dessus. Il y avait des réunions où on se disait qu'est-ce qu'on veut mettre en avant comme style ou.
Il y avait pas vraiment. Je pense qu'ils me faisaient confiance sur la compréhension de la couleur de la radio. Enfin, tu vois, ils avaient dû me briefer au tout début du stage et tout, mais.
En fait, un stagiaire qui filtre la musique d'une grande radio, c'est osé quand même, comme. T'as bousillé des carrières,
il y avait même autre filtre, j'imagine.
Mais en même temps, il y a quand même. Enfin, dans les envois, en tout cas à l'époque et tout, dans les envois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui correspondaient vraiment pas du tout. Enfin, tu vois, c'était pas genre ça peut correspondre, mais c'est pas ouf. Et genre, je prends l'initiative de le jeter.
Non, il y avait des trucs qui étaient.
C'était vraiment des trucs qui sont complètement hors du truc, ou des trucs vraiment complètement pas. Enfin,
nul.
Pas.
je dis à ta place, hein, mais.
Genre, tu vois, où tu sens que ça va pas coller avec la couleur d'antenne, et ou alors c'est pas assez haut niveau encore pour et puis c'est pas un jugement esthétique, tu vois, c'est juste un jugement pratique de faut que ça rentre dans la programmation de Nova ou pas, quoi. Mais et puis voilà, c'était un premier filtre, et ensuite
non, parce qu'on se dit aussi à ta sensibilité, donc t'aurais très bien
vois,
si t'avais par exemple joué dans un groupe avec un mec qui a un accordéon, bon,
par exemple.
Bon, bah, boum, t'as un CD qui arrive. Bon, bah, il y a de l'accordéon. Bon, bah, tu te dis, ok, c'est pas exactement la couleur, mais je peux essayer de le passer en scred, tu vois, ou.
Ouais, non, je sais pas. En tout cas, je l'ai jamais vu comme ça, parce que pour moi, c'était le. Et puis, je pense que c'était un moment où j'étais assez en accord avec la couleur de l'antenne de Nova aussi, donc je pigeais le truc, tu vois, et du coup, et c'est pour ça aussi que Max et Emilien me faisaient confiance là-dessus, quoi. C'est que. Ça collait. Enfin, il n'y a pas eu d'impair, en tout cas, a priori, quoi. Enfin, j'espère.
Ton expérience radio, tu vas la continuer après à Radio Campus. Alors, c'est un grand réseau de radio, d'ailleurs, Radio Campus. T'étais à Paris? T'étais où?
Ouais, mais j'étais salarié de Radio Campus Paris.
Ok.
Ouais.
Et là, tu gérais plus l'antenne, c'est ça? Donc, c'était pas que de la programmation musicale?
Non, c'était un mélange de gestion. Parce que c'est Radio Campus, donc c'est un réseau de radio associative. Et donc Radio Campus Paris est une radio associative où le principe c'est que c'est des bénévoles qui font les émissions. Donc c'est plusieurs centaines de bénévoles qui font les émissions. Et moi mon rôle c'était de faire la grille d'antenne avec les émissions préexistantes et recruter des nouvelles émissions, des nouveaux bénévoles, et de faire en sorte bah, qu'il y ait une grille un peu cohérente et donc pas que musicale, parce qu'il y avait aussi des émissions rédactionnelles. Donc voilà, essayer de faire en sorte qu'il y ait une grille qui corresponde à une diversité un peu de sujets et de plein de choses, quoi.
Ça existe encore, Radio Campus?
Bien sûr.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Moi, je me rappelle du, tu sais, le nom de la radio sur l'autoradio, mais je me rappelle pas être resté dessus. Tu sais, tu le vois passer, tu sais, quand tu cherches des stations. C'était quoi la fréquence, tu t'en rappelles, ou?
À Paris, c'est 93.9.
Ouais, c'est ça, quand tu cherchais Skyrock.
Ouais, c'est juste à côté.
Tu voyais Campus, et tu fais, ah non, pas ça. Ouais. Hop. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais écouté.
Et tu sais que dans beaucoup de villes, enfin, c'est un réseau de radio qui donne sa chance, par exemple, à des gens qui ont envie de faire de la radio, qui est un peu plus accessible que d'autres trucs.
Non, mais c'est super cool. Hein,
ouais. Et c'est important dans pas mal de villes, Radio Campus.
Ouais. Après, c'est vrai qu'ici à Paris, du coup, il y a.
C'est un peu plus noyé.
C'est un peu plus noyé parce que la bande FM est sursaturée de plein de radios, mais il y a plein d'autres villes où c'est des radios hyper écoutées parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, en fait. Ouais. Quoi. Enfin, il y a plein d'autres villes où il n'y a pas. Je sais pas, il y a pas Nova, il y a pas FIP, il y a pas d'autres radios qui permettent de découvrir des nouvelles musiques et tout. Et c'est un réseau en vrai assez chouette, assez important, et qui est aussi qui sont un peu des radios écoles aussi pour des jeunes bénévoles qui ont envie de faire de la radio, d'être au micro et de faire des choses. Donc c'était une expérience hyper riche aussi. Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, mais là, je vais parler un tout petit peu de moi, parce que j'ai vécu cette expérience personnellement. Je suis un grand amateur de radio. C'est vraiment le média à la base qui me plaît le plus. C'est vrai que depuis que je fais du web, j'ai la liberté qu'offre le web, c'est assez incroyable. Et de plus en plus, je préfère Internet. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport affectif à la radio, et que j'ai toujours lié aussi à mon amour de la musique. Et je crois qu'il y a un truc vraiment un ressort sonore. Tu sais, un truc qui fait sens, un truc commun quand même dans tout ça. Est-ce que c'est un truc que tu peux partager ou pas?
Ouais, je crois, parce que moi, c'est du son, et je sais pas, j'ai toujours, je crois que c'est ça que j'ai toujours aimé, c'est le son, et que tu produises une émission de radio, ou que tu produises un morceau de musique. Il y a plein de choses assez similaires. Enfin, je veux dire, t'as besoin d'un sujet, t'as besoin d'un format pour faire éclore ton sujet. Enfin, il y a plein de choses qui sont communes. Et je sais que, enfin, quand moi je travaillais à Radio Campus Paris, bah, j'adorais justement toute cette partie réalisation d'émissions et accompagner les bénévoles sur la réalisation d'émissions. Et ça passait par construire avec eux la structure de l'émission sur la partie vraiment rédactionnelle et sujet, ouais. Sur la partie éditoriale, et aussi tout l'habillage, du coup, qui pour moi était hyper important pour articuler aussi le discours et le message,
et créer un univers
et puis oui, c'est un peu pas rangé, mais
cadré,
ouais, cadré, enfin,
c'est mince, structuré,
structuré, voilà, enfin, c'est structuré le propos, et je pense que, enfin, la musique, c'est aussi ça, c'est tu fais qu'on fait que structurer un propos au final, quoi. Enfin,
oui, mais alors du coup, expérience chez Nova, expérience chez Radio Campus, si on avait suivi la voie dans laquelle tu te lançais, t'aurais dû même rester en radio.
C'était une des voies possibles.
Ouais.
C'était une des possibilités.
Que s'est-il passé?
Mais je pense qu'à un moment, j'avais fait un peu le tour de la radio associative. Parce que j'avais travaillé 5 ans là-bas, et c'était super, c'était hyper enrichissant, mais bon, voilà, il n'y avait pas de perspective de. Puis ça n'a pas de sens dans une radio associative aussi de rester 10 ans, 15 ans. Enfin, comme le principe pour moi, c'est un truc formateur,
c'est
aussi,
un roulement,
aussi
ouais,
pour les salariés,
et
pas que pour les bénévoles.
Ouais.
Il faut que ça tourne, quoi. Il faut que les gens fassent que les suivants fassent les mêmes erreurs que toi, t'as faites, pour aussi qu'ils se forment et qu'ils apprennent des trucs. Et
du coup, t'avais pas une volonté de rentrer dans un réseau radio
J'ai eu cette envie-là un moment, mais en fait, au moment où je me dis, bon, je pars de Radio Campus Paris, je faisais déjà
la musique.
De la zik côté, perso. Et il se trouve qu'au moment où, tu vois, j'ai eu un peu de chômage en partant de Radio Campus Paris, un copain musicien, batteur, Stéphane Belliti, qui a un projet qui s'appelle Ricky Hollywood, avec qui j'avais déjà joué un peu en parallèle de mon travail en radio, qui un jour m'appelle et me dit « Ah, je commence à travailler avec une chanteuse, là, on cherche quelqu'un pour faire du synthé, là, on doit partir la semaine prochaine en répétition, et puis après, on a une résidence, et après, c'est parti. » Et je me suis dit, bah écoute, ouais, vas-y, pourquoi pas. Enfin, j'avais jamais fait ça, mais je me suis dit, bah tentons le truc. Et donc c'était Juliette Armanet, et c'était le avant la sortie de son premier album. Et on s'est rencontrés avec Juliette et courant est bien passé. Du coup, je me suis retrouvé en répétition, je me suis retrouvé en résidence. Et puis après, je me suis retrouvé sur la route en tournée avec elle. Et puis le, voilà, le disque a marché, la tournée a marché. Et ça m'a mis un peu, c'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier.
Oui, qui a validé le,
voilà, le choix, quoi. Voilà, et là, du coup, bah, je me suis dit, bon,
décocher l'intermittence. Bon,
voilà. Et voilà, ouais, aussi, y avoir l'intermittence et tout. Donc du coup, le.
Vous voyez les jeunes.
Le choix s'est fait.
Les rencontres. Peu...
Bah oui,
les
c'est rencontres. Ça. C'est les rencontres. Et puis c'est aussi les saisir les opportunités.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
Tu vois.
Ces rencontres, c'était par quel biais? Est-ce que tu participais, je sais pas, à des jam sessions? Est-ce que tu fréquentais des lieux? Comment on se crée un réseau comme ça? Comment un copain un jour nous dit, tiens, tu sais que machin cherche?
Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était en arrivant à Paris, de cette communauté de copains qui faisaient des musiques un peu plus chelous dans les caves de Belleville, enfin pour résumer grossièrement le truc, mais c'était beaucoup plus riche que ça, mais du coup bah voilà, ça m'arrive de rencontrer
des
gens.
Mais on les croise où, ces copains?
Bah je sais pas, je voudrais pas dire, c'est tellement organique, du coup ça se, enfin en tout cas pour ma part, je me permettrais pas de donner une, tu vois, une solution au truc. Non, c'est le fait juste d'avoir envie de faire de la musique avec d'autres gens. C'est que tu partages un moment des trucs, puis t'as envie d'organiser des concerts avec tes copains, et du coup t'as envie d'inviter les copains, et du coup t'as envie d'aller voir les copains qui jouent à d'autres trucs. Donc forcément tu commences à croiser des gens, et tu sympathises avec des gens qui te proposent ensuite de jouer. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai rencontré du coup Stéphane, qui lui était déjà un peu plus impliqué dans le réseau professionnel en tant que batteur. Et donc voilà, c'est ça qui l'a amené à, tu vois, à me proposer un jour de, enfin il a pensé à moi au moment où il cherchait, où Juliette cherchait quelqu'un pour jouer du clavier, du synthé. Bah Stéphane a pensé à moi, et du coup bah, je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ça, mais bah allons-y.
Let's go.
Enfin,
c'est un autre métier d'accompagner sur scène des artistes. C'est pas son projet perso, c'est pas, t'as dû apprendre des choses, te mettre au niveau entre guillemets, ou ça a été facile?
Bah c'est pas facile, parce qu'en plus moi j'avais une formation donc de violoniste, mais pas de claviériste. Enfin tu sais, j'ai toujours bidouillé des trucs au synthé et tout, mais genre j'ai pas de formation de pianiste, quoi. Donc j'ai pas forcément une technique très poussée en clavier, en piano. Mais donc oui, forcément j'ai dû travailler des choses. Enfin, au moment là de cette proposition, on m'a dit, bon bah voilà, il y a ce répertoire là, la semaine prochaine on est en répétition, donc faut que tu saches jouer les trucs. Bah oui, du coup tu travailles les trucs, mais bon, au final, ça c'est que du travail. Enfin, genre, c'est la technique, ça se, tout le monde peut le travailler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que c'est pas. Enfin, je pense que j'avais ma formation en musique, enfin par le violon.
T'avais un socle,
mais du coup,
quand même.
Je pense que c'est ça qui fait qu'ils m'ont proposé de jouer avec eux. C'était pour ma musicalité, d'une certaine manière. Et après, bah, tu dois travailler un autre instrument. Et je dis pas que c'est interchangeable, mais genre ça se travaille, quoi.
Quand t'as
les
bases,
c'est pas inaccessible, quoi.
Quand t'as les bases, ça se travaille.
Ouais.
Et l'aspect scénique, parce que partir en tournée, c'est quelque chose. Alors, c'était pas encore la star qu'elle est aujourd'hui. J'imagine que les tournées étaient un peu plus petites, les salles plus petites aussi, etc. Mais toi, t'avais déjà eu une expérience de la scène, ou est-ce que ça a été une découverte aussi? Pareil, c'est un autre métier aussi. Il y a une attitude, j'imagine, à avoir, proposer un spectacle en cohérence avec l'artiste.
Ouais, bah oui, c'était un apprentissage, mais ouais, qu'on a fait un peu tous ensemble au final. Ouais. Enfin, tu vois, enfin, Juliette, c'était ses premières scènes aussi. Enfin, elle avait déjà joué un peu avant sur d'autres trucs, t'apprends, en fait. Enfin, moi, j'avais déjà une expérience de concert, mais sur des choses plus réduites et tout, sur des jauges plus petites, dans des plus petites salles. Et expérience de concert avec l'orchestre aussi, conservatoire. Enfin, c'est différent, mais il y a quand même un truc où tu l'as déjà fait, quoi. C'est pas genre, j'ai jamais fait de concert, et d'un coup tu te retrouves dans une salle de 3000 places où tu sais pas, enfin il y a un truc. Non, et puis après, ouais, je sais pas,
oui, t'avais déjà, et enfin t'étais initié, donc en fait pour toi c'était une évolution naturelle, c'était pas un...
Ouais, en tout cas j'y ai jamais trouvé de difficulté. Ouais. Enfin, je veux dire,
c'est bien de le dire aussi,
c'est pas ça n'empêche pas d'être stressé, d'avoir du trac et de machin, mais...
Non, parce que tu sais, on parle souvent syndrome de l'imposteur, machin, où il y a d'autres gens qui peut-être se seraient dit tu vois, on me propose d'accompagner une musicienne sur un instrument qui est pas celui pour lequel je me suis vraiment formé. Bon, je sais pas trop.
Est-ce qu'un mec le ferait pas
mieux
que moi?
Non, mais sur le moment, bah, j'étais tétanisé, c'est sûr que j'étais pas...
Non, mais tu y allais quand même.
Mais non, je sais pas le faire, je vais pas le faire, c'est pas possible que je le fasse. Et j'ai quand même dit, bah oui, je vais le faire. Parce que ça aurait été bête de... Mais... Et effectivement, après, il y a plein de fois où tu dis, genre, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que, machin? Enfin, mais, bah, ouais, puis, enfin, je sais pas, t'apprends, et puis t'apprends en faisant, et je sais pas, je trouve ça.
Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Parce que, aujourd'hui, vous faites tu continues à faire les tournées avec Juliette, vous faites des salles énormes, j'imagine, au vu du succès populaire que c'est. Il y a eu un moment, justement, où il y a eu une date, c'est un peu step-up, où vous avez fait une salle d'une dimension inédite pour vous, et là, tu t'es tapé un coup de flip, ou, tu vois.
Bah, au final, je pense que c'est bizarre, mais c'est des fois plus stressant de jouer dans une toute petite salle que de jouer dans une immense salle. Enfin, donc tout le monde, tu sais, on a joué à Bercy, là, enfin, à la Core Arena,
donc c'est quoi,
l'année dernière,
c'est
ou, ouais,
15 000, 18 000 personnes.
Je sais plus, ouais.
La jauge, c'est quand même.
Mais au final, tu vois, quand tu, entre un zénith, je sais pas, un zénith, c'est quoi, c'est 5 000. Ouais. Et déjà, quand t'as 5000 personnes, déjà, c'est complètement fou. Ouais. Enfin, genre, c'est déjà pas normal, enfin, entre guillemets, de jouer devant ça.
C'est 20 000 l'accord.
C'est 20 000 l'accord. Ouais. Ouais. Bah, il n'y a pas une énorme différence.
Ouais, enfin,
je veux dire, en termes de ressenti.
Au-dessus de 500, en fait, on compte plus.
Ouais, enfin, il y a un truc aussi. Ouais. Mais c'est aussi, enfin, genre, je pense que c'est plus facile à dire pour moi, en tant que musicien qui accompagne Jean-Juliette, parce que c'est elle qui incarne le projet, c'est elle qui est en front devant le truc et tout. Et puis aussi quand t'es pris voilà dans une belle tournée comme ça où tu vois tu joues avec on est tous copains t'es dans ton truc
ton groupe,
et puis voilà avec une production qui était super aussi, enfin c'était vraiment une tournée formidable la dernière tournée de Juliette et donc oui du coup tu je sais pas t'es un peu pas dans tes chaussons parce que c'est un peu péjoratif mais en tout cas t'es tellement bien installé que
finalement le reste c'est
tu vois tu te retrouves t'arrives t'as tes synthés, ils sont mis comme d'hab. Tu vois, la fosse est là, mais bon.
De toute façon, tu vois pas les gens parce que t'as les lumières dans la gueule.
T'as les lumières, machin. Donc ça change pas énormément de trucs. Et ça veut pas dire que t'y mets pas d'enjeu, parce que à chaque concert, on y mettait de l'enjeu, parce qu'aussi Juliette, on a eu la chance que Juliette nous fasse confiance pour construire les arrangements du live aussi de manière collective, quoi. Enfin, c'était pas une partition à jouer. Et donc il y avait forcément l'enjeu, mais pour moi il est pas forcément lié à la capacité de la salle, quoi. Enfin,
c'est cool de.
Puis aussi pour moi je pense que ça a autant de valeur de jouer devant 1000 personnes ou 50 000 personnes ou de. Enfin, tu vois, c'est.
Non, parce que on pourrait se dire que t'es justement aussi dans un délire un peu comme du scoring, tu sais, de te dire ok j'ai fait 7 salles et puis.
Maintenant c'est quoi la prochaine
salle, tu vois. Et en fait toi tu dis non.
Non, ouais, pour moi, je dis moi c'est plus stressant de.
Dans des petites salles
ou. Des petites salles, des petits clubs où t'as un truc plus de proximité avec les gens où.
Le mec il est penché sur ton clavier.
Tu sens plus le truc et c'est là où c'est plus stressant.
Ouais, c'est marrant.
Est-ce que on a déjà reçu quelques personnes dont le métier était beaucoup d'accompagner les artistes. Je pense à Ludovic Louis par exemple qui a accompagné pendant 10 ans Lenny Kravitz, des choses comme ça.
Robin Note aussi.
Bien sûr. Avec Ben Mazuet. Est-ce qu'il y a parfois une forme de frustration de ne pas être consulté sur l'album et que donc derrière sur scène tu dois appliquer une recette qui a été déterminée quand même sans toi entre guillemets. Après tu disais quand même qu'il y avait la question de l'arrangement en live, donc peut-être ça change le rapport.
Pour le coup en tout cas sur le cas particulier de la tournée de Juliette, ça s'est pas passé comme ça. Déjà j'avais fait quelques sessions studio aussi pour l'album, enfin tu vois en tant que musicien quoi sur le disque.
Tu apparais sur l'album, tu es crédité à des moments en temps.
Ouais, j'ai dû faire quelques synthés, quelques pianos et ce qui est super c'est que pour le live, pour la tournée de ce dernier album, elle a voulu elle avait pas peur de recasser les arrangements de son disque et elle a recruté une équipe je pense qu'elle savait en nous recrutant qu'on avait des choses à dire aussi, qu'on était créatif, qu'on avait envie de bouger des choses. Donc on a eu cette chance-là de pouvoir aussi réadapter les morceaux et d'avoir cette liberté-là de les réadapter et de se les approprier aussi, quoi.
Et t'as eu des moments justement sur scène où hop le projecteur il se met sur toi et au clavier et puis là tu fais un petit solo de synthé.
Je crois qu'on a dû faire un peu des trucs.
Allez Corentin,
on a dû faire des saloperies comme ça un peu.
Non, je trouve ça cool moi à chaque fois.
Non, si ça fait partie du.
Ouais, bien sûr.
De l'univers du truc.
Ouais.
Il y a une autre expérience extrêmement marquante. Alors parce qu'il y a aussi quand même cette EP en 2017. Est-ce que tu c'est après que tu bosses avec Sébastien Tellier. C'est après l'EP, non? Ou je dis une bêtise?
Ouais.
Parce que avec Julia, tu commences à bosser avant l'EP. L'EP arrive ensuite. Donc, c'est-à-dire que tu bosses quand même ton projet solo.
Ouais, toujours mon projet solo en parallèle de ces tournées-là, ouais. Ouais.
Ce que je te propose à ce moment-là, c'est qu'on s'écoute quelques extraits de Dessous de Plage, ton premier EP qui sort en 2017. Et puis ensuite, on parlera de ton expérience avec Sébastien Tellier. Parce que peut-être d'ailleurs que lui et son équipe ont été marqués par ce disque, je sais pas, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait appel à toi.
D'où vient la connexion?
Il y a une histoire.
Ouais. on en parle alors juste après. Est-ce que sur les 6 tracks qu'on trouve sur Dessous de Plage, cette EP, y en a qui te plaît? Ouais, ça a bien marché, Choubidoubidou. Hein.
Ah, de fou.
Ouais, t'es quasiment à 1 million de streams sur Spotify.
Ouais. Bah, pour associer une playlist Radio Nova, parce qu'il est rentré en playlist Radio Nova. Donc, et là, j'y suis pour rien. J'étais plus déjà à Radio Nova.
Ah, donc le stagiaire qui a reçu le CD.
Bah, lui, du coup, il l'a pas acheté à la poubelle. Ouais.
Il faut dire. Alors, moi, je suis pas très objectif, parce qu'en plus, je t'ai déjà recommandé dans une émission. C'était quoi? C'était celle avec les scopes? Non, c'était celle avec Jérémy Arcache et Léo Ortega avec Code.
Okay.
Où j'avais recommandé Unit, Insecure, qui est surtout dans l'album. C'est un de mes morceaux préférés de l'album. Et j'avais été marqué quand même par la sortie de ton EP aussi. Parce que c'est pas tous les jours que tu vois un premier EP qui est aussi bien foutu, avec déjà une identité assez marquée, je trouve. Bah on va l'écouter tout de suite. Il y a des morceaux, toi, qui te plaisent particulièrement encore sur cette EP?
Choudiboubidou.
Moi, je crois que celui que j'écoute encore, que j'aime beaucoup, je suis toujours très fier de tout, mais c'est Bricolage et Mélancolie.
Ok. Ouais. Et ben, ce que je propose, c'est on s'écoute un bout de Bricolage et Mélancolie, et après on s'écoute un bout de Fréquentation Modulante, parce que j'adore ce morceau. Okay. Allez, Bricolage et Mélancolie. Ça blip blip, hein.
On sent bien le bricolage.
Ouais.
Moins la mélancolie.
Ah ouais, si. Bah, ouais. C'est dans la construction du morceau, il y a des accords un peu mélancoliques.
Il y avait des. Ouais, de partout, hein. Ça pop dans tous les sens. Ouais.
On évoquait quand même, c'est vrai, Choubidoubidou qui a très bien marché. Je mets juste un petit extrait rapidos pour qu'on voit à quoi ça ressemble.
La guitare là, c'est un VST ou c'est une vraie guitare?
Non, c'est la vraie guitare.
C'est la vraie guitare. Ouais. Okay. Et c'est toi qui la joues aussi?
Ouais.
Tu fais tout de façon.
Incroyable.
Tes projets, globalement.
Incroyable.
Il suffit de travailler, hein, tu vois.
N'importe quel instrument, je le prends, boum.
Et je mets maintenant un extrait de Fréquentation Modulante, parce que j'ai une remarque en fait en écoutant les 3 morceaux. D'abord, Fréquentation Modulante. We'll be right back.
smooth.
Très smooth. Et surtout, je trouve...
Très smooth.
Je sais pas si t'en avais conscience en dans cette EP, mais je le trouve extrêmement cohérent. Je trouve qu'il y a une vraie patte sonore commune et en même temps les morceaux ne se ressemblent pas.
Il y a les mêmes blips et les mêmes bloops.
Ouais, non mais il y a un vrai. Je sais pas si t'avais conceptualisé ça un peu, mais on sent une cohérence dans l'ensemble.
Ouais, je pense que il s'est fait assez vite aussi dans le temps. Enfin.
Ouais. Donc t'étais dans la même.
Ouais, c'est ça. Et puis avec
le même énergie, le même.
Avec peu de matériel aussi. Enfin, j'avais installé un petit home studio dans une maison à la campagne et du coup j'ai un peu tout fini à ce moment-là en une semaine. Donc forcément, je pense que c'est ça aussi qui donne de la cohérence, quoi, c'est d'avoir un peu les mêmes synthés, les mêmes blips, les mêmes,
ouais, les mêmes trucs blips.
Et... Du coup, tu ça.
Parce que là, il y a combien de titres? C'est un.
5 titres,
quoi. 6 titres.
6 titres.
Ouais. Six. Ah, okay. non, pardon, excuse-moi, c'est un 5 titres, mais c'est un instrumental. C'était quoi, d'abord, à l'époque, ton rig, pour faire cette EP, principalement, tes machines principales? Tu te rappelles?
Ben, j'avais un, je crois que je venais d'acheter un synthé qui s'appelle un Kawai 100F. Une sorte de synthé monophonique analogique de la début 80, fin 70 début 80 je pense. Truc classique, quoi, un oscillateur, filtre, machin, et mais qui a un super son de basse et tout, enfin, et même les leads et tout, enfin il a un son assez crémeux un peu machin qui est sympa. Et aussi je pense qu'il a fait un peu le son, enfin, qui me paraît hyper daté pour moi maintenant, mais j'avais enregistré donc du coup dans une maison à la campagne où il y avait un studio où j'avais pu faire des prises de batterie, mais un peu bricolées. Enfin, c'est vrai que là pour le coup la batterie je sais pas vraiment en jouer, mais du coup j'enregistrais un peu des bouts comme ça et après je refaisais des patterns, et donc c'est ça qui est un peu sur tous les morceaux du disque. C'est peut-être ça qui donne la cohérence aussi du truc.
T'as samplé ta batterie
Ouais, c'est ça, un peu vraiment des petits bouts, des fois un petit bout de Charlie Snare ensemble, mais ensuite redécoupé sur le sur l'ordi pour refaire une sorte de groove un peu, quoi. Et aussi ce qui était super dans ce studio, c'est qu'il y avait un VCS3 qui est, je sais pas ce que c'est, mais c'est un synthé un peu mythique. Je trouve que ça vaut, enfin, je sais même pas si ça se vend encore maintenant. Enfin, c'est un truc, ça ressemble à un, c'est un truc comme ça, là. C'est ta, enfin, tu peux brancher un clavier, mais sinon t'as des petits picots que tu branches, et puis t'as trois ou quatre oscillateurs.
Il y a un panneau principal, c'est ça, la verticale.
Avec, voilà. Et ça fait des super blips et des super blips. Et donc, ça, du coup, j'en ai enregistré des heures, et après, j'ai redécoupé des trucs, et j'en ai, voilà.
Mais donc, ça, c'est, ces trucs-là, on les trouve sur l'EP, parce qu'en fait, la machine était là où t'as enregistré.
Ouais, c'est ça. C'est que du coup, je me suis retrouvé pendant cette semaine-là, à cet endroit-là, et du coup, j'ai pris ce qu'il y avait, et j'ai fait avec ça, quoi. Ouais.
Quand tu sors cette EP, alors à l'époque sur le label Mutant Ninja, si tu dis pas de bêtises, y a déjà la velléité d'en faire parler, de le diffuser le plus possible. T'étais vraiment en mode, vas-y, là c'est le moment. Alors il y a Juliette, c'est cool, mais je m'y mets à fond sur mon projet solo.
Ouais, bah on s'est dit effectivement avec mon label de l'époque, la Mutant Ninja, oui, allons-y, faisons-le. Enfin, on a pressé des vinyles, on a essayé de faire des petites promos, des trucs et tout. Il y a eu le morceau Shoudi Bouidou là qui est rentré en playlist sur Radio Nova aussi, donc ça a permis de faire avancer le truc. On avait monté un petit setup live aussi pour jouer un peu le truc. Donc oui, on avait essayé de le faire bien à l'époque, quoi. Ouais.
Et ça porte ses fruits?
Je pense que c'est toujours compliqué des projets un peu bizarres, enfin une espèce de disque un peu de pop funky
blippé
instrumental comme ça et tout, c'est un peu hors format. Enfin, c'est assez incroyable même que déjà un morceau soit rentré sur Radio Nova, c'était super, mais c'était assez, en vrai, assez dur à défendre, je pense.
Y a quand même une vibe un peu French Touch.
Ouais, alors qu'on va retrouver beaucoup chez 41 aujourd'hui, qui est un peu moins visible là, mais par contre, je pense qu'il y a ce côté, le P s'appelle Dessous de plage, tu sais, côté un peu estival,
résidence, villa,
librairie musique aussi des années 70-80, où il y avait ce truc un peu léger, un peu comme ça, de musique, de d'ambiance un peu, quoi.
Enfin, ouais, même
au sens du terme.
Les tracks un peu de city pop japonais.
Qui s'inspire aussi de la librairie musique. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler rapidement d'ailleurs de la librairie musique, en quoi ça consiste, pourquoi ça t'a marqué?
Pour l'aspect didactique, la librairie musique, du coup, c'était des disques qui était produit dans les années assez tôt, je pense. Enfin, qui avait vocation à être utilisé sur le, à la télévision, quoi. Enfin, ou, ou dans le cinéma, ou de voilà. Mais c'était des disques où bah il y avait des séquences avec un mood mood printanier, avec des fois des trucs de bruitage et tout, qui étaient destinés aux professionnels de l'audiovisuel pour
pour l'illustration,
pour l'illustration sonore, voilà. Et mais sauf que il y a souvent c'était des disques qui étaient produits à l'époque par des gens, des musiciens de studio qui faisaient d'autres projets et qui à la fin d'une session studio, hop, vite fait, ils enregistraient une petite tourne comme ça en, en deux heures ou même pas, enfin tu vois, en 30 minutes et ça, ils avaient un disque de librairie musique qui leur faisait un petit complément de revenus aussi derrière.
Et c'est devenu mythique.
C'est que c'était des très bons musiciens qui enregistraient ces disques et du coup, il y a plein de disques mythiques de librairie musique.
Mais ça veut dire qu'ils les signaient pas avec, en leur nom.
Non, non, c'était sous pseudo ou, ou même pas signé, quoi, sous le nom de la boîte qui éditait le truc, quoi. Mais il y a plein de super trucs et notamment plein de bizarreries électroniques aussi comme ça qui sont super et plein de disques de la musique ont été samplés des tonnes de fois dans plein de genres musicaux. Ouais.
Et donc cette EP qui te permet quand même d'avoir une forme d'exposition, tu nous disais qu'il y a une histoire quand même avec Sébastien Tellier donc qui est signé chez Record Makers qui va devenir ton label aussi. Donc j'imagine qu'il y a un truc quand même, une aventure commune là qui va se créer, qui provient en partie de cette EP.
Bah ouais, alors enfin le pour l'histoire du coup, donc cette, quand cette EP est sortie, donc il y a eu un petit peu de presse machin, et notamment un article sur un blog qui n'existe plus, qui était un super blog qui s'appelait The Drone et qui avait fait un article sur le morceau Bricolage et Mélancolie justement. Et il se trouve que César de Record Makers tombe sur cet article là à ce moment-là et trouve le morceau super et du coup il trouve mon contact et il me contacte pour me proposer à l'époque de bosser avec une nouvelle signature qu'ils avaient qui était Colaboy. Et donc voilà, moi je rencontre César de Record Makers à ce moment-là et il me propose de travailler sur la musique de Colaboy qui viennent juste de signer à ce moment-là et donc on fait un premier test sur un morceau, puis je produis tout le premier EP de Mathieu de Colaboy. Et donc c'est là la rencontre avec Record Makers, c'est faite comme ça quoi. Et ensuite,
c'est-à-dire que ils viennent te voir parce que t'es un artiste.
Ouais, parce qu'ils ont découvert le disque de Sous de Plage avec
et
notamment
ils proposent,
ce morceau.
Pas de faire ton propre son, mais d'accompagner.
Non, d'abord d'être producteur, de produire la musique d'une de leurs nouvelles signatures. Ouais.
Donc, ce métier entre guillemets de producteur, il consiste à accompagner l'artiste, à jouer les morceaux, à composer éventuellement aussi. En quoi ça consiste exactement?
Oui, c'est un peu tout ça. C'est de l'arrangement, de l'enregistrement, ça peut être un peu de composition aussi. Et c'est, je sais pas, pour moi, je le vois comme un truc de, c'est de la direction artistique aussi un peu, enfin où tu vas capter l'énergie et l'idée de composer par un artiste et ou chanter par un artiste et de l'amener au bout quoi, de l'idée.
Donc lui, il arrive avec ses compositions et ensuite vous en discutez, vous le retravaillez ensemble pour qu'elle donne naissance à quelque chose de plus développé, que vous partagez une vision et comme ça se crée une nouvelle matière quand même à partir des compositions.
Ouais, c'est ça. Enfin, là pour le cas particulier de Colaboy, il avait de son côté, il avait déjà commencé à travailler avec d'autres gens. Donc il avait différentes versions de ses morceaux, mais qui perdaient toujours un peu la saveur de la maquette originelle, quoi. Et donc moi j'ai récupéré un peu toutes ces pistes-là, puis j'ai fait un peu du tri, j'ai réenregistré des choses et ouais, c'est une espèce de tambouille de plein de trucs, mais voilà, qui passe par réenregistrer des basses, muter des pistes.
Et toi, du coup, par rapport à ton propre chemin à ce moment-là, ça te va de... Parce que tu pouvais te dire, je sors un truc en propre, les mecs viennent me chercher, c'est potentiellement pour que je sorte d'autres trucs sous mon nom, et paf, je me retrouve à produire un mec. Tu vois, comment tu l'as... C'est quelque chose avec lequel t'étais OK avec ça, dès le départ?
Parce que du coup, j'étais content qu'on me propose de produire pour quelqu'un d'autre, parce que c'est un truc que j'avais toujours eu envie de faire.
D'accord, ok.
Tu vois, même en... assez jeune, enfin tu vois, en écoutant d'autres disques et tout, en lisant les notes de pochette de trucs et tout, ah mais ça a l'air super de faire ça, enfin de faire ce job là. Donc ouais, non, pour moi les deux étaient complètement incompatibles, quoi. Okay. Enfin, il y avait pas de
Et ça se fait beaucoup d'ailleurs dans le métier, des gens qui ont à la fois leur projet perso et qui font
producteur. Quand tu es dans ton
momentum,
tu dis genre ah oui, j'aimerais qu'on me propose un truc pour moi perso et tout.
C'est le moment où faut
Non, puis en vrai, enfin, je trouve ça bien aussi parce que c'est aussi des rencontres qui te font avancer sur ta propre musique aussi, quoi. Donc c'est.
On s'écoute un morceau avec Olabé. En plus, ce serait une forme d'hommage parce que il est décédé depuis, tristement. Ouais. Mais il y a un morceau sur lequel t'as bossé qu'on pourrait s'écouter avec Olabé.
Bah, je sais pas. J'ai envie d'écouter le Penny Girl, qui est le premier morceau du coup, qui était la rencontre avec lui, avec Mathieu et tout. Donc c'était. Ouais.
Allez, on s'écoute Penny Girl. Bien ce morceau.
Ah ouais,
cool, ouais, il est très cool. Ouais. Et on retrouve, alors peut-être que c'était déjà dans le projet initial de Colaboy, mais on retrouve des sonorités, le jeu évidemment à la molette de modulation qu'on retrouve beaucoup sur Dessous de Plage. Je sais pas
c'est qu'il y avait une connivence. Enfin, effectivement, déjà la maquette de Mathieu était déjà les maquettes étaient hyper bien. Enfin, et il y avait effectivement plein de territoires et d'esthétiques communes. Donc c'était assez malin de la part de Record Makers de nous faire brancher ensemble. Ouais.
Est-ce que c'est ça ta collaboration avec Record Makers, là j'imagine que ça se passe bien, tout le monde est content et donc ça continue.
Et ouais du coup ça continue, et c'est ça qui m'a amené à rencontrer Sébastien Atelier aussi après,
un autre artiste du label,
artiste de Record Makers. Et oui, comme du coup ça s'est bien passé sur ce disque là avec Colaboy, ils ont continué à me proposer des remixes, des trucs comme ça. Donc j'avais fait un remix pour l'album que Sébastien Atelier avait produit pour Dita Von Teese. Plein de couches. Wow. Il avait produit pour machin, j'ai fait un remix de machin. Mais donc oui, non, je sais pas, parce qu'il y a une anecdote marrante de ma rencontre avec Seb, c'est que, donc moi j'avais fait ce remix là pour un morceau qu'il avait composé pour Dita Von Teese. Et donc il commençait à travailler sur le prochain album de Atelier. Et donc il proposait plusieurs produits, enfin le label a proposé à Sébastien plusieurs producteurs, et dont moi. Et il se trouve que Sébastien, je l'avais croisé par hasard dans la rue à Cannes quelques mois plus tôt. Okay. Et je pense que le fait de l'avoir croisé, et on a échangé 2-3 mots comme ça rapidement, je pense que ça a joué dans le fait qu'il a dit ah oui, bah pourquoi pas travailler avec lui, parce qu'il avait l'air sympa.
Les rencontres, encore.
Mais non, mais c'est ça, je pense que si je l'avais pas croisé par hasard dans la rue, bah tu serais dit, bah non, je sais pas qui c'est ce mec.
Vous étiez sur le même label quand même?
Moi j'étais pas signé sur le Record Makers, mais du coup voilà quoi. Ouais. Okay. Et donc ça, pour ce genre de petits trucs du coup qui font que
à Cannes en plus, c'est improbable.
C'est quand même improbable. Et donc voilà, du coup j'ai rencontré Sébastien, on s'est bien entendu, on a commencé à faire de la musique ensemble et voilà.
Est-ce qu'il est fidèle au personnage qu'il semble être de l'extérieur? La collaboration a été aisée?
Ouais, très facile, oui, parce que c'est quelqu'un de profondément gentil et sympa c'est quelqu'un de vraiment adorable et tout, donc sinon c'était très 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 simple de travailler.
Et son univers artistique te parlait déjà?
Bien sûr, moi je connaissais déjà sa musique, enfin il y avait plein de morceaux que j'adorais déjà, enfin des morceaux mythiques, et donc j'étais ravi de pouvoir travailler avec lui. Et d'autant plus ravi que la collaboration soit bien passée.
Ouais.
Alors donc là on est sur, c'est sur Domesticated. Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que tu arrives quand même après une t'arrives dans un second temps sur l'album où il y a déjà eu un travail effectué ou t'es là dès la base?
Sur l'album Domesticated. Bah en fait l'idée de l'album au départ c'était qu'il y ait plusieurs, enfin je crois que l'idée de départ c'était un producteur par morceau.
Ok.
Et il se trouve que bon, il y a eu plusieurs producteurs qui ont fait deux trois morceaux dont moi j'étais en charge de faire deux morceaux sur l'album. Et sauf que c'est des producteurs qui habitaient pas en France, donc du coup bah il y a toujours besoin un peu d'aller-retour, un peu de trucs, donc il se trouve, et comme moi j'avais mon studio à Paris, bah on a tout centralisé à mon studio à ce moment-là. Donc il y a d'autres producteurs qui ont travaillé sur le disque, mais on a tout centralisé, tous les morceaux, toutes les stems des morceaux qu'on a ensuite retravaillé ensemble avec Sébastien au studio.
Donc toi t'as produit deux morceaux directement, mais t'as quand même supervisé l'ensemble.
Finalisé ensuite avec Seb tous les morceaux du disque.
Donc ça sort en 2020. 2020, oui c'est ça, 2020 pardon. On peut préciser parce que tu dis d'autres producteurs, c'était un beau casting hein, parce qu'il y a Varnish Lapissie,
il y a Varnish,
il y a Zdar.
Zdar, bah justement un morceau qu'ils avaient fait au studio Venezia à Venise avec Varnish.
J'adore ce morceau qui s'appelle Venezia d'ailleurs. On peut s'écouter un extrait. Toi t'as bossé sur lesquels vraiment, enfin alors t'as supervisé l'ensemble mais vraiment en tant que producteur attitré sur un track
J'ai bossé, c'est terrible, j'ai oublié les noms.
Alors il y a A Ballet, Stuck in a Summer Love.
Il y a Stuck in a Summer Love et Oui.
Et oui, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y en a un des deux que t'as envie d'écouter?
Je sais pas, Stuck, pourquoi pas,
Allez, on s'écoute ça, puis après on s'écoute Venezia, parce qu'il est vraiment trop bien ce morceau.
Il n'y a pas de drums à part un kick lointain.
Ça arrive peut-être après, non?
Il y a des drums qui arrivent un peu plus tard dans le morceau, mais il y a ce kick un peu tout droit, tout du long.
J'avais, sans savoir d'ailleurs que tu avais travaillé dessus, écouté l'album à sa sortie. Et j'étais pas un expert tellier, donc je sais pas comment il a été reçu chez les fans, entre guillemets, à la base, ou qui aimaient sa musique. Mais j'avais adoré le fait que c'était une vraie nouvelle piste entre guillemets artistique pour Sébastien Tellier. Je pense notamment évidemment au traitement vocal, on l'entend, qui était inédit je pense chez lui. C'était assez couillu entre guillemets, tu vois, de se dire bah vas-y, on va lui foutre de l'autotune, on va lui mettre en tout cas des traitements pour modifier sa voix, alors qu'il était déjà connu quand même pour sa voix, pour son timbre assez particulier. Et puis globalement, même si c'est un mec, j'ai l'impression qu'il a toujours été proche des scènes électroniques, etc. Là, on a vraiment un truc complètement assumé sur cet album, très électro, mais au sens électro, pas musique électronique, mais vraiment électro, tu vois, électro-funk, y a ce truc un peu... C'était une ambition voulue, ça.
C'est lui qui voulait ça à ce moment-là, que ce soit un disque très, très électronique et très vaporeux comme ça, très et avec ce traitement de voix et tout. C'était décidé, quoi.
Mais c'était très bien vu. Et sur Venezia, ça marche trop. Tu vois, il y a un truc même, je trouve, hip-hop même sur Venezia. Hip-hop à l'ancienne, tu vois, électro-hip-hop, tu vois, un peu des débuts.
Vas-y, balance, on va voir.
Le délire que j'évoquais un peu,
ouais, la snare Miami années 80, quoi.
Et c'est, d'ailleurs, c'est quoi comme traitement vocal? Parce que j'ai évoqué l'autotune, mais c'est clairement pas de l'autotune. Il y a des bends sur les voix, etc. Donc j'imagine que c'est plutôt un post-prod qui a eu une modification vocale. Comment ça
se... Ouais, c'est de l'autotune, mais piloté en, avec un clavier MIDI. Et du coup, on. Enfin. Seb chantait et moi je jouais en même temps des mélodies pour souligner des mélodies qu'il faisait. Des fois, il fallait chercher le, tu vois, parce que l'autotune il travaille beaucoup pour aller à la quinte, à la sixte au-dessus, du coup, pour avoir ce grain de voix un peu. Donc, ouais, on a vraiment bossé en studio tous les deux pour trouver un peu le. Puis, tu vois, chercher à chaque fois le petit tweak, le petit machin, en le jouant au clavier. Voilà.
Y compris sur tous les morceaux de l'album, en fait, ça.
Sur une bonne partie des morceaux de l'album, ouais. Et ce qu'on a aussi essayé de retranscrire en live sur certains morceaux aussi de la tournée qui a suivi cet album-là.
Ça a dû être un défi, ça, pour le live.
Ouais, bon, on s'est un peu, tu vois, pas pris la tête parce qu'il y avait des solutions, mais ouais, chercher des solutions avec l'équipe technique de la tournée pour avoir ce truc de la voix qui passe dans un autotune, mais où moi j'ai quand même un clavier MIDI qui permet de piloter la voix et tout, mais c'était assez marrant à faire pour le coup, ouais.
Il y a un deuxième album qui arrivera ensuite avec Sébastien Tellier, sur lequel vous bossez.
Ouais, un peu dans la foulée, on a travaillé sur un disque Simple Mind, qui est un disque de version un peu acoustique de son répertoire. Et donc c'était chouette aussi ça. Ouais, du coup, on a travaillé pendant, je sais pas, 2 semaines dans un studio pour réarranger un peu les différents morceaux de son répertoire pour refaire ça. C'était, ouais.
C'est une belle marque de confiance, j'imagine. Enfin, ça signifie en tout cas que tout le monde était très satisfait de l'expérience domestique.
Bah ouais, puis oui, parce qu'avec Sébastien, c'était aussi une rencontre chouette amicalement aussi. Donc du coup, bah oui, on continue à travailler ensemble, quoi.
Alors moi, sur l'album, il y en a plusieurs que j'aime bien. C'est marrant, d'ailleurs, je me suis rendu compte en écoutant que celle qui me parlait le plus, elle s'enchaînait toutes. C'est-à-dire que j'adore la version de L'amour et la violence, celle de Look, celle de Ballette et celle de Divine aussi. C'est vraiment, je trouve, il y a ce quatuor qui marche trop bien, qui est presque au début de l'album. Toi, je sais pas s'il y en a certaines qui te parlent en particulier.
La version de L'amour et la violence aussi, parce que c'est la version qu'on a jouée ensuite en live et tout après. Donc oui, elle m'a, je l'aime bien celle-là.
Allez.
Enfin, je les aime toutes. Hein.
Alors, question de Béotien, une version acoustique, tout est électronique là encore, à part sa voix.
J'ai dit version acoustique, c'était plutôt des versions un peu dépouillées et,
ouais.
Et aussi l'idée de les jouer quasiment tout en live, quoi.
D'accord. Enfin,
tu vois, d'avoir ce truc-là, ouais, plutôt dépouillé que acoustique, parce que là c'est quasiment tout simple.
Après sur sa voix du coup il y a aucun traitement là pour le
non,
coup.
Non non voilà ouais, c'est ouais.
Bah c'est assez valable comme parce qu'il y a des morceaux où il y a vraiment guitare acoustique etc un peu plus présent. Je crois que c'est sur Divine si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Attends je crois que ça commence. Tu vois.
No no I.
Oui.
Ouais. Ok ouais. Là, typiquement par exemple tu vois. Ouais. Mais oui t'as raison sur le côté dépouillé. En fait c'est l'approche acoustique en tout cas c'est pas forcément des sons acoustiques.
Oui voilà
mais
ça,
l'approche
c'est
acoustique. Ouais, ouais, ouais je suis assez ouais, d'accord. Ouais. Et même la voix de Tellier j'ai l'impression qu'elle est pas traitée comme en studio. Effectivement t'as ce grain
non,
un peu
la,
plus
la
live
ce truc ouais, ouais très très live ouais.
C'est un super album aussi. Franchement là vous ouais, je dis Domesticated et Simple Mind vous avez bien bossé globalement.
Ouais moi ouais. Ça j'aime bien.
T'avais de la bonne matière entre les mains aussi avec
Sébastien. Oui non mais c'est sûr c'est que les compos et sa manière d'interpréter aussi sont ouais, formidables donc c'était
et du coup ces deux collabs, ces deux succès aussi, ça t'a ouvert d'autres portes. Il y a des gens qui sont venus te voir en te disant tiens, au fait, on a bien aimé.
Personne,
ça,
non, pas du tout.
Sérieux?
Non, je sais pas. Enfin, je sais pas si on peut parler de succès. En tout cas, c'est des bodies dont je suis hyper fier et tout.
C'est des belles pièces, tu vois. Donc,
c'est des belles pièces et tout. Ouais. Et puis la tournée était super aussi derrière avec. Mais
tu l'as accompagné ouais, en live.
Et on l'a. Ouais, c'est ça. Après, on a monté une version live de ce tout ça et non mais oui non je sais pas il y a pas eu de coup de fil suite à ça. enfin tu sais jamais trop parce qu'après tu travailles avec d'autres gens ouais. Et enfin je sais pas c'est une espèce de tout mais
oui enfin t'as pas senti une diff ou d'un seul coup ça s'est mis à vibrer plus le...
Non pas directement comme ça d'un coup ouais non en tout cas
les gens
ouais.
Les gens sont ouais. C'est fou.
Bon ouais, ça va quand même donner après j'ai vu que tout ça a joué sur le fait que tu sortes ton premier album
ouais bah c'est pour ça tout ça c'est des petites briques qui se construisent et qui s'accumulent c'est sûr.
Et juste avant qu'on passe à cette deuxième partie où on va parler vraiment de ce que tu viens de sortir et de ta pratique d'aujourd'hui est-ce qu'on peut intégrer aussi parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même plusieurs remixes tu as fait des remixes alors t'as cité pour Dita Vantis mais il y a eu aussi des remixes de Mid, de l'Impératrice, plus récemment de Mylène Farmer. Est-ce que c'est vraiment un plaisir pour toi, hein, parce que c'est ludique, ou est-ce qu'il y a quand même aussi une forme de stratégie de dire, bah justement, tu vois, alors je bosse pour des gens, etc., mais pour faire parler de moi, c'est important aussi de sortir des remixes. Il y a un peu de ça.
Bah, il y a toujours un peu de ça, forcément, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est pas le moteur premier. Enfin, c'est j'adore faire des remixes, vraiment. Je trouve ça hyper, hyper, hyper cool à faire. Ouais. Enfin, je sais pas, tu prends déjà de la matière qui est déjà préexistante, qui est en général déjà bien produite, bien enregistrée, et juste t'as des briques, machin, tu peux enregistrer, tu peux t'amuser à réharmoniser les mélodies de voix, les trucs et tout. Enfin, je trouve ça hyper ludique comme exercice. Donc,
Tu bosses sur quoi comme base? T'as les stems,
Ouais, en général, t'as les stems du morceau d'origine et puis, ouais. Moi, j'aime bien en général un peu casser plein de trucs, quoi. Enfin, tu vois, quitte à réharmoniser aussi, trouver d'autres accords sur les mélodies de voix. Mais non, en tout cas, il n'y a pas un truc de dire, ah, je vais faire ça parce que c'est stratégique, parce que si je fais ce remix pour un tel, du coup, ça va, enfin. Et puis aussi, c'est qu'en général, enfin, la plupart des remixes que j'ai fait, c'est pas moi qui suis allé démarcher pour dire toc toc j'aimerais bien faire un remix de tel morceau.
On t'a proposé.
Oui, c'était des trucs qu'on m'a proposé de faire.
Oui, c'est le cas par exemple pour celui de Libertine de Mylène Farmer qui est récent, qui est sorti en avril dernier.
Ouais.
C'est l'équipe de Mylène Farmer qui vient.
Ouais. Okay. Voilà. Donc
Libertine quoi.
Ils ont pris Libertine.
De l'époque.
Ah c'est marrant ça.
Bah ouais.
Ils veulent faire des remixes en 2024 d'un morceau qui a 30 ans.
C'est qu'ils ont sorti un album de remix de plein de morceaux de la carrière de Mylène Farmer.
Ah, c'est marrant. Ouais.
Donc c'était une commande donc bah ouais je suis content quand on me propose de faire des remixes.
Tu veux écouter Dan?
Bah évidemment.
Je suis
intrigué.
Un extrait du remix de Libertine par Nit.
Thank you.
Club, hein.
Ah ouais, ouais, ouais. Et ouais, du coup, tu t'es éclaté sur la voix aussi, t'as mis des filtres, des machins.
Bah là, pour le coup, j'avais pas les stems, j'avais que la voix.
Ouais.
Qu'elle a réenregistré pour l'occasion.
Ah.
Et donc oui, j'avais que la voix et voilà, fallait que je fasse avec ça. Mmh. Mais du coup, non, c'était un bon exercice.
C'est cool.
Tu t'es amusé à comparer la voix qu'elle a réenregistrée, donc j'imagine récemment, par rapport à l'original?
Non, j'ai pas fait directement de AB et tout. Non, parce qu'en vrai, elle est très bien, la voix qu'elle a refaite et tout. C'était quand même de la bonne matière à utiliser pour le remix.
Eh bien, écoute, il est temps quand même de parler de cet album en passant à la deuxième partie. Cet album...
Sorti il y a 4 jours, donc.
Qui est sorti... Ouais, alors pour les gens...
Il y a un mois pour les gens qui... Ouais.
Comment il s'appelle cet album, alors, Corentin, dis-nous tout.
Big Bang Puzzle.
Vous en avez parlé très rapidement après Simple Mind avec Records Makers. C'est toi qui allais toquer à la porte du bureau, t'as dit « Bon, les gars... » J'ai fait le taf, il est temps, ou c'est eux qui t'ont dit?
Non, c'est eux qui m'ont proposé, parce que enfin forcément je leur faisais toujours écouter un peu les trucs que je faisais en parallèle, quoi. Non, bah je sais pas, c'est venu assez naturellement, quoi. Enfin, un jour ils m'ont dit bah écoute, super, tu commences à avoir des morceaux qui sont cohérents ensemble, donc bah vas-y, on est chaud pour un disque, pour signer un contrat. Et du coup, enfin, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement parce que je travaillais avec eux déjà depuis plusieurs années et tout, donc c'était assez logique au final de faire ça avec eux. Ouais.
Est-ce que alors je comprends que tout ça s'est fait de manière relativement fluide pour toi. Il y avait déjà eu en plus l'expérience quand même de Sous de Plage. Est-ce que quand même ça a été, tu t'es dit à un moment ou un autre, c'est une forme de nouveau démarrage ou c'est juste une continuité?
Ah, qu'est-ce que je me suis dit? Oui, pour moi, c'était une continuité complètement entre Dessous de Plage et Big Bang Puzzle, tu veux dire?
Ouais,
bah, oui, enfin, c'est une suite parce que, enfin, il y a eu.
Il y a 7 ans quand même de.
Ouais. Bah, c'est sûr que c'est deux disques qui sont très différents en termes de son. Enfin, j'ai l'impression enfin, je sais pas, c'est de la meilleure musique, mais en tout cas, en termes de technique, de production, de machin et tout.
D'avoir progressé,
je suis plus à jour là-dessus. Puis en même temps, je trouve ça normal aussi que ça soit, avec cet endroit, que ce soit des disques différents, puisque, bah voilà, enfin, l'âge change aussi, du coup. Enfin, forcément, on est tous un peu différents entre 7 ans en arrière et maintenant. Et plus, voilà, les expériences dont on a parlé aussi, bah forcément, forge aussi d'autres choses, d'autres goûts musicaux, d'autres esthétiques, des rencontres, de trucs qui font que t'as envie de faire de délivrer autre chose, quoi. Donc oui, non, c'est quand même une continuité dans ce chemin,
le cheminement,
ce cheminement musical. Mais
qu'est-ce qui, si tu devais dire ce qui est le plus marquant en termes d'évolution, disons esthétique, je parle vraiment d'un point de vue sonore, durant ces 7 ans, ce qu'on retrouve sur ce nouvel album, qu'est-ce qui est le plus caractéristique selon toi, vraiment, dans ton évolution, un truc que tu faisais peut-être pas auparavant, qui est vraiment...
En gros, il dit, là où t'as enregistré, est-ce qu'il y avait une autre machine qui était là?
c'est ça.
Ça passe peut-être par du matos. Non, je pense que ça va au-delà du matos, quand même.
Bah oui, parce que si on parle matériel, effectivement, il y a des trucs différents. Moi, je pense que ce qui m'a un peu guidé, mais qui est venu un peu des différentes choses que j'ai faites entre temps, c'était une espèce de recherche, d'expérimentation, de mélange entre du chimique et de l'organique, en gros, quoi. Enfin, qui peut se traduire en termes de son par du synthé et en même temps des sons acoustiques, quoi. Enfin, mais d'une manière où que j'avais envie
déjà,
de trouver.
Tu le faisais déjà quand même auparavant.
Je le faisais déjà un peu avant, mais là, je sais pas, j'avais envie de
le pousser
d'un truc. Mais même, tu vois, quand je parle de son, de chimique, c'est plus aussi des textures de synthé plus digitales, plus numériques, un peu dans les sonorités. Et je pense que c'est ça un peu qui d'une certaine manière a un peu lancé le projet de ce disque, quoi. C'est d'essayer de trouver un territoire de mélange entre ces textures là qui me semblaient pas souvent aller ensemble. Enfin, en tout cas, j'avais pas d'exemple en tête de dire ah tiens, je veux faire ça parce que ce mélange-là fonctionne. C'était un peu justement de chercher une nouvelle manière, en tout cas, de les mélanger, parce que plein de gens ont évidemment mélangé des textures numériques et analogiques et acoustiques, mais c'était en tout cas de trouver une nouvelle manière que j'avais un peu dans la tête, du coup, de mélanger ces textures-là pour en faire un objet que je considère quand même comme un objet pop, quoi, enfin dans la finalité des structures de morceaux et tout ça, enfin, d'où le truc d'expérimentation pop électronique, quoi.
Est-ce que il y a eu une forme aussi de conceptualisation de cet album? Je parle encore vraiment là d'un point de vue artistique et sonore, parce qu'il y a aussi l'aspect visuel dont on parlera tout à l'heure. C'est très intéressant ce que vous avez fait, parce que vous avez fait appel à des gens pour vous aider sur l'aspect visuel. Mais sur l'aspect sonore, est-ce qu'à un moment tu t'es dit j'ai un concept ou une idée explorée ou un truc fort, etc., ou c'est vraiment encore une fois dans cette continuité de flux de morceaux faits au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment tu te dis bah ouais, pourquoi pas, ça fait un tout en fait. Ou est-ce qu'il y a eu quand même cette idée de allez attends, je m'arrête là, je me pose, qu'est-ce que je fais de cet album, tu vois?
Je pense qu'il y avait quand même ce fil-là là de recherche de texture un peu de sonique, quoi, un peu d'une certaine manière. Et après, je pense que le concept, il est venu un peu en faisant les différents morceaux, quoi. Parce qu'il y avait, comme c'était un peu de la recherche, j'avais en même temps envie des fois de faire des morceaux de trip-hop et des fois des morceaux de techno. Enfin, je sais pas, tu vois, il y avait un truc où c'était presque difficile de conceptualiser en le faisant, puisque je sais pas, enfin, je pense que le concept, ouais, il est venu en faisant le truc. Et pour le coup, tu parlais d'image, et beaucoup lié à l'image aussi, quoi. Enfin, parce que presque la pochette du disque est arrivée assez vite dans le processus. Enfin, genre, on avait la pochette avant même que le disque soit terminé. Et ça a beaucoup contribué aussi à donner une espèce de cohérence un peu d'ensemble au disque, quoi.
Et puis, de toute façon, c'est assumé dans le titre, à savoir qu'il y a un puzzle aussi dans cette affaire.
Ouais, c'est ça, parce que c'est en même temps, c'est pas une facilité pour moi de dire c'est un puzzle, là tu fais ce que tu veux, ça sent machin, parce que le puzzle il est quand même censé se connecter, c'est pas des pièces prises n'importe où, n'importe comment. Non, parce que je pense que ça correspond aussi à mon parcours un peu, hein. Enfin, tu vois, ce qu'on disait d'avoir fait du violon classique, d'avoir fait de la radio, d'avoir fait des tournées de variété française, d'avoir fait du travail électronique en studio, enfin, ouais, c'est un peu tout ça forme un tout qui est peut-être un peu complexe, mais qui pour moi doit pas être compliqué, et du coup, non, je pense que ça s'est formé un peu comme ça, parce que je pense que c'est moi, quoi, enfin, tu vois, j'ai essayé de faire un truc sans trop me prendre la tête, tu vois, enfin, en essayant de faire un truc qui soit cohérent avec ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Ouais.
Alors, je suis embêté pour mettre des extraits de cet album, pour une raison simple, c'est que c'est quand même assez varié. Tu retrouves des références, des esthétiques. Alors, il y a aussi un son commun, indéniablement, mais il y a quand même des morceaux, tu vois, où tu te dis, ah, ok, là, je vois quand même où il veut nous amener, ou à quoi il fait référence, ou ce qu'il a voulu faire, en tout cas, avec ce morceau-là. Tu vois, je pense, typiquement, Autostop et Insecure sont des morceaux un peu plus calibrés, quand même, pop, dans leur structure, etc., ou un peu plus dansant, peut-être. T'as O, qui clôture l'album, qui est clairement un morceau ambiante. Bas, à l'inverse, qui est l'ouverture, donc t'as Bas et O, l'opening, et puis le ending, où là, c'est plus de l'expérimentation électronique à base principalement d'arpégiator, j'ai l'impression, tu vois, où ça c'est juste place au synthé pour ouvrir le truc.
Mais tu vois, je pense c'est que finalement ce disque, je le vois comme un grand morceau. Enfin, il a vraiment été fait pour être écouté du début à la fin. Ouais. Et donc effectivement, ça passe par plein d'endroits, mais pour moi c'est ce cheminement là qui fait le morceau, quoi. Enfin,
qui fait le disque. Il est anti-playlist, alors.
C'est obligé. Ouais, il est peut-être pas effectivement hyper dans le format actuel d'écouter des singles. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même des morceaux qui effectivement qui peuvent s'écouter indépendamment des autres. Mais en tout cas, dans la pensée globale du truc, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience, quoi. Enfin, et aussi d'avoir une espèce de truc un peu narratif, parce que je pense que j'ai toujours eu ça un peu dans mes morceaux, c'est d'essayer de raconter quelque chose, comme c'est aussi la plupart des morceaux instrumentaux, donc il faut essayer de trouver comment raconter quelque chose, mais pour moi c'est raconter quelque chose de manière abstraite, quoi, enfin, comme un peu un espèce de grand œuvre de tableau abstrait, du coup, où finalement chacun peut y voir ce qu'il veut, tu vois, tresser un peu des chemins, y trouver des similitudes, un peu des trucs. Enfin, pour il y a un truc de volonté de laisser de la liberté d'interprétation aussi à ceux qui écoutent.
Y compris en tant qu'artiste, on peut se dire. Si parmi mes auditeurs, il y en a certains qui skippent certains morceaux, c'est pas grave.
Là, c'est dommage parce que tout est ensemble. c'est le jeu du truc de toute façon. Enfin, j'ai quand même pensé les morceaux pour que ça soit des morceaux qui puissent s'écouter indépendamment des autres. Mais c'était pour répondre à ta question de concept global et de disque. Du coup, j'avais envie de ça, quoi. D'un
album qui commence, qui débute et qu'il faut.
Ou comme un espèce de grands dessins animés, quoi, comme un Alice au pays des merveilles où tu suis un lapin, tu sais pas trop où il va t'amener encore, et puis tu tombes là, et puis tu découvres plein de personnages et de gens, voilà.
Comment on peut faire alors pour écouter un peu de...
Bah, il faut se le taper en entier, là.
Ouais, il faut l'écouter en entier.
Allez, c'est parti.
On a le temps, c'est 53 minutes, je crois. Ça va, hein.
C'est 53 minutes.
Ça se fait. Non, est-ce qu'il y a des morceaux, par exemple, qui pourraient illustrer cette diversité? Alors, j'en prends un, par exemple. T'as évoqué le trip-hop. Y a un morceau qui peut faire penser au trip-hop ou même à cette pop internationale des années 90. Tu vois, je pense notamment parce qu'il y a une voix dessus. C'est Drone to Me qui rentre complètement là-dedans. Alors, il y a plein de trucs qu'on pourrait s'écouter. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on s'écoute ça par exemple?
Bah, avec plaisir.
Drone to Me, allez. Ça par exemple.
Ouais.
Et à côté, on peut passer à le morceau qui précède, Zoom, qui lui est plutôt.
Donc là, volontairement, tu le fais dans l'autre sens.
Ouais, c'est vrai. Oui, je sais pas. Là, je t'avoue, j'improvise. Mais, mais parce que, enfin, je pense en fait aux morceaux qui m'ont marqué, etc. Et je trouve qu'en contrepoint, Zoom est assez intéressant parce que c'est plus une longue plage instrumentale qui prend son temps, un peu moins calibré, pop. Il y a pas de voix, etc.
Ouais, moins dans un format couplet, refrain.
Absolument. Ouais. Et qui est un bon contrepoint pour illustrer la diversité, je pense, de l'album. Thank you. petit peu.
C'est trop marrant, il y a une vibe, tu sais, musique de jeux vidéo.
Ouais.
Ah ouais,
c'est des
ouais.
années 90, genre Amiga, Atari, avec les trucs qui progressent et des nouveaux trucs qui viennent accompagner.
Ouais, genre je suis assez d'accord.
Des jeux Psygnosis, donc de Liverpool à l'ancienne.
Puis on passe aussi de cette intro, enfin cette intro, de toute une partie même du morceau, très dépouillée, un peu expérimentale, très percussive, où la mélodie prend pas et pas le truc principal, un truc un peu plus club à la fin, un peu plus dansant, etc. Ouais, il y a vraiment au sein même de certaines tracks quoi, la diversité. Vous avez pas eu peur avec les équipes aussi du label, etc., de perdre l'auditeur en mettant autant de toi, autant de diversité?
Je pense que c'est pas le, c'est enfin. Avec Record Makers, du coup, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus de dire, bah non, faisons de la musique qui nous plaît, et puis sans trop penser à la réception que ça va avoir. Ouais. Enfin, je pense que l'important, c'est d'être le plus sincère possible dans le truc. Et enfin, effectivement, t'es toujours obligé de penser au format, au truc et tout, mais finalement, on l'a plus pensé après coup, une fois que les morceaux étaient finis. Enfin, au contraire, du coup, Record Makers, ils sont plutôt à pousser les curseurs, dire va au bout de ton idée. Si l'idée c'est de faire un morceau de 15 minutes avec je sais pas, enfin tu vois, un truc bizarre au milieu, bah c'est ça qu'il faut faire. Si le morceau il est comme ça quoi, et ça c'est assez chouette d'avoir cette liberté là quoi.
T'as carte blanche en fait.
Complètement. Et puis en vrai même je trouve ça précieux, parce que à part dans des musiques plus expérimentales et tout, je pense que il y a plus beaucoup de créneaux pour faire des musiques un peu hors format, un peu comme ça, donc c'est cool quand on peut le faire.
J'ai choisi deux morceaux. Tu peux peut-être toi nous dire si t'as envie d'écouter quelques trucs. C'est ton album après tout. Je sais que c'est toujours frustrant de pas pouvoir tout écouter. On invite évidemment nos éditeurs à aller écouter bien sûr.
Je pense qu'un des morceaux moi qui, je pense que c'est aussi le dernier que j'ai fait sur le disque, qui s'appelle Puzzle Effect.
Ouais.
Et je sais pas, qui est un morceau un peu central dans le disque et tout, pour moi qui synthétise un peu plein de trucs, je pense.
Et bon, on se l'écoute.
Ouais.
D'avancer un petit peu.
Je voulais entendre les drums rentrer là. Trop loin.
Oui, c'est vrai. Mais Corentin aime les intros longues. Il aime prendre le temps. Ah, il a raison.
C'est un voyage.
Absolument. Ouais. Tu sais à quoi il me fait penser ce morceau? Il me fait penser à un morceau que j'adore de Parawan qui s'appelle You.
Ok.
Et ça peut m'évoquer un peu ce genre de choses. Peut-être que je me. Voilà.
Ouais, ouais.
C'était très subjectif.
C'est quoi?
Mais je retrouvais un peu de cet univers-là. Il faut qu'on parle absolument de cet aspect visuel qui accompagne cet album, qui j'imagine...
J'y compte bien.
Même peut-être va t'accompagner ensuite. Et je sais pas si c'était aussi l'idée de construire une identité visuelle pour NEET de manière générale et peut-être pas uniquement pour cet album-là.
Bah ouais, totalement. Enfin, il y a eu deux choses hein, pour l'album. Déjà, la pochette du disque donc, qui a été réalisée par une artiste suisse qui s'appelle Flora Motini, qui est une artiste dont j'adore le travail depuis longtemps. Et quand l'album a commencé à se former, enfin, c'est marrant d'ailleurs parce que tu fais des SoundCloud avec un peu les maquettes, un peu les trucs, et j'avais mis une image à elle, enfin, sans lui demander son avis parce que c'était juste un truc privé. Mais du coup, il y avait eu longtemps une image à elle, une de ses œuvres qui était sur le SoundCloud privé avec les morceaux un peu en work in progress, quoi. Et donc assez vite, du coup, je me suis dit, faut que je lui écrive, quoi, que je lui demande, je lui fais écouter un peu les débuts de trucs et elle a accepté donc de produire une œuvre spécialement pour l'occasion, mais assez tôt dans le processus de fabrication du disque, quoi. Et donc au final, cette œuvre là, bah, je l'avais en fond d'écran pendant que je faisais de la musique aussi, donc ça a permis de construire un peu tout le disque avec ça. Et donc il y a ça d'une part, la pochette du disque, et d'autre part tout l'aspect visuel qu'on a développé avec un studio de graphisme qui s'appelle H5. Donc ce petit logo N qui se transforme en personnage et qui devient une espèce de petit NEET qui devient un peu mon avatar, mon alter ego qui...
Ouais, parce que Daz, tu dois te demander le petit personnage dont parle Corentin.
Ah oui,
on voit en fait sur la pochette qu'il y a des petites mains là. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont créé une forme, d'avatar, quoi, de personnage qui est trop présent.
Un petit personnage, le petit NEET, quoi. Je sais pas. Ah ouais. Donc voilà, qui est en même temps ce logo.
Très inspiré cartoon, un peu...
Ouais, c'est ça, un peu une espèce de petit Mickey, quoi.
Ouais, tout à fait.
Mais il est où, on le voit où?
Attends, on va le trouver sur Internet.
Bah, ça va être compliqué parce que NEET, c'est l'unité de mesure de la luminosité. Tu vas taper NEET, t'es mort.
Ah, attends, on tape NEET musique. Alors là, il y a le petit N. Il faut qu'on mette un de tes clips, en fait. C'est ça qu'il faudrait.
Bah, il y a les petits visualizers là, de YouTube. Là,
ouais, absolument. Voilà, nous sommes de retour. Daz a pu le voir.
Il a des chaussures, des gants, mais pas de slip. C'est-à-dire qu'il se balade à poil.
Mais après, le N, où il mettrait le slip?
Je sais pas. C'est un slip un peu bizarre, quoi.
Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est un truc dont on n'a jamais parlé dans l'émission. C'est un artiste avec son label qui font appel à une autre société, en fait, une autre boîte, une agence de graphisme. Pour constituer une esthétique, quoi, une DA, visuelle, ouais. Une DA. C'est toi qui, enfin, c'est Records Makers, t'as suggéré ça. Comment moi je connaissais pas cette pratique, je t'avoue même.
En fait, c'est pas tellement une DA externe, parce que du coup, c'était en réfléchissant assez vite à comment donner une image à ce projet qui est surtout instrumental, du coup, assez vite, on se dit, bah, ce serait bien de faire une espèce de petit logo, un peu, tu vois, à la Aphex Twin, quoi, tu vois, qui avait son logo hyper reconnaissable. Donc, c'est né de là. Et du coup, fallait chercher des gens compétents pour faire ça. Et c'est là où Marc Tessier-Ducrot, là, de Record Makers, qui a tout de suite pensé à ce studio H5, parce qu'ils c'est un studio un peu mythique. C'est eux qui ont fait une bonne partie de la DA des pochettes des trucs de la French Touch années 90, enfin, notamment le super discount d'Étienne de Crécy et ce genre de choses là.
Donc c'est pour R aussi, si je dis pas de bêtises.
Oui, probablement. Enfin, je connais pas. Enfin, ouais. Je me souviens plus en détail, mais en tout cas, ils ont fait plein de super trucs et donc Marc a proposé à H5 de travailler là-dessus au départ sur une espèce de logo, quoi, simplement, quoi. Et puis en discutant avec Ludo de H5 et Marc et César, du coup, assez vite. Et comme on avait la pochette aussi de Flora avec ses petites mains qui étaient là, assez vite on s'est dit, tiens, ça serait marrant que le petit N puisse se transformer en personnage. Enfin, qu'il avait cette forme déjà un peu organique. Assez vite, on s'est dit que ça serait assez rigolo, tu vois, de décliner ça. Mais on l'a pensé ensemble, quoi, avec.
Mais du coup, la pochette, elle est arrivée avant la création de l'album, concrètement, ou au tout début?
Avant la fin de la production de l'album.
Et par contre, la DA avec le perso.
Ça, c'est arrivé après, ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
D'accord.
Enfin, ou pendant, tu vois, à partir du moment où on s'est dit, bon, bah, l'album, il est presque fini, on va sortir ça. Mais ouais, non, c'était vraiment l'idée de trouver une manière de personnifier de manière marrante la musique, et puis aussi d'inventer un peu ce petit personnage, quoi, ce mythe, quoi.
Enfin, c'est très 90s, un peu comme délire, en fait.
Ouais, tu sais, je suis assez d'accord.
Cool spot, Fido Dido.
Ouais, je trouve qu'on est complètement là-dedans.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça.
Et puis en plus, il y a eu quand même une petite ref, parce que le 12e morceau de l'album qui s'appelle Looney Tune.
Oui.
Il y a quand même un truc, je parlais d'image un peu, d'imagerie cartoonesque.
Complètement, ouais.
Il y a tout cet esprit-là, ouais.
Mais c'est aussi parce que moi j'aime beaucoup les arts visuels et j'aime beaucoup l'image et je pense que j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup comme ça, quoi, sur des esthétiques d'image et de visuel, et donc voilà, j'aime beaucoup la bande dessinée, les cartoons, donc tu vois, assez naturellement c'est venu comme ça, quoi, d'avoir ce petit personnage à moi.
Ça se passe comment, la collaboration avec H5? C'est des allers-retours, c'est eux qui proposent, c'est vous qui avez un brief de base, enfin c'est des mots clés, comment ça se passe?
Comme je disais, ça s'est fait un peu ensemble, quoi, avec l'idée de trouver un logo assez vite. Enfin, il y avait l'idée de faire un truc assez organique dans le logo, avec ses références, avec Swin et tout, dont je parlais aussi. Ouais. Mais ça s'est fait assez simplement, quoi, avec H5 qui propose de faire ça. Et puis, bah oui, il y a différentes propositions, et puis tu choisis un peu, genre, bah celle-là, elle semble mieux collée que celle-ci. Et puis ensuite, tu t'affines comme ça.
Et du coup, tu pars sur le fait de conserver cet avatar-là sur les futurs projets, ou...
Ouais, bah oui, je pense, parce que du coup, pour moi, c'est devenu le NIT, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, c'est en même temps mon petit personnage, et en même temps, c'est en même temps comme si c'est lui qui faisait de la musique, mais en même temps c'est moi. Enfin,
c'est-à-dire que tu vas l'intégrer à la scéno,
ouais, bah probablement, si on peut trouver une manière maligne de faire déjà, tu vois, en projection, machin et tout. Ouais, non, pour moi maintenant il fait partie complètement du projet, quoi.
Après,
il y aura des mutations, hein, peut-être.
Il y aura des t-shirts, il y aura des mugs,
des casquettes et des chaussettes et des slips.
Très important. Vu que lui n'en a pas, mais c'est bien de le mettre.
Slipknit, en plus, ça sonne bien.
C'est vrai, le Slipknit, c'est très bien.
Slipknit, ouais, c'est...
Est-ce que c'est une manière aussi pour toi, je pense, ne rien trahir, en disant que tu es plutôt... tu aimes plutôt la discrétion, je pense, quand même, de manière générale.
Oui, enfin, c'est vrai qu'aussi, au départ...
C'est un moyen aussi de moins te mettre en avant, moins mettre en avant ton visage, etc.
C'était ça aussi au départ, c'était de trouver une espèce d'avatar qui évite de trop montrer sa tête, quoi. Et c'est revenu de là. Mais c'est un truc avec, enfin, genre, c'est pas un dogme absolu de pas vouloir montrer ma tête, hein. Enfin, dire, vous foutrez le...
En tout cas,
t'as pas envie que ce soit absolument incarné partout avec ta gueule à chaque fois, etc., ta musique.
Non, parce que pour moi, je trouve pas ça hyper intéressant. Enfin, en tout cas, plutôt à l'inverse, je trouve ça plus marrant de trouver des manières de l'incarner différemment plutôt que de bêtement montrer sa tête. Enfin, je veux dire, c'est pas réducteur, mais je trouve ça plus marrant de se creuser un peu la tête, dire, tiens, comment on pourrait incarner ce projet instrumental, du coup, on peut le faire, donc autant le faire, et puis s'amuser à trouver un truc pour le faire de manière originale et rigolote, quoi.
Soit c'est un truc que t'avais en tête dès le départ, ou, je veux dire, le label là-dessus, il était,
Sur l'incarnation, tu veux dire?
Ouais,
moi je pense que j'avais dès le départ, parce que j'ai un peu grandi aussi avec ça. Enfin, tu vois, avec les Daft Punk, toute cette French Touch dont on parlait aussi. Du coup, c'est pas des gens qui incarnaient leur musique par leur physique, quoi. Enfin, plutôt des gens discrets qui se montrent pas forcément.
Alors, les Daft Punk, non, mais Tellier plus, quand même.
Bah, Tellier plus, parce que, Bah oui, parce que lui déjà, bah, il chante aussi, donc du coup il y a une incarnation de fait un peu par le par la voix, mais tu vois, je sais pas, des Étienne de Crécy, des même R ou
on évoquait Sdar avec Cassius, pareil, voilà, globalement.
C'est pas, il se cachait pas forcément, mais en tout cas, il mettait pas forcément en avant ce truc là, quoi. Donc moi, comme j'ai grandi un peu avec ça, je sais pas, pour moi, c'était assez naturel de pas chercher non plus à me mettre en avant physiquement, quoi.
C'est cette expérience que vous avez eue autour du travail visuel, ça peut nous amener, et peut-être que ce sera le dernier sujet avant qu'on passe aux recommandations, sur ces aspects un peu plus métier, business, dont on aime bien parler dans cette émission. On a compris comment t'as trouvé ton label, puisque c'est eux qui sont venus te chercher pour travailler d'abord avec Colaboy, puis Sébastien Tellier, puis enfin ce premier album. Est-ce que ça a été une découverte pour toi aussi, en étant accompagné par Records Maker, tous les aspects... de protection de tes droits, de rémunération, de promotion, de booking, de d'édition éventuellement, enfin, tout ce qui entoure le métier de musicien et qui est aussi essentiel quand on développe une carrière solo. C'est des trucs sur lesquels t'es encore en train de travailler d'ailleurs, ou au contraire t'as conscience, t'es accompagné pour ça, comment ça se passe?
J'avoue que moi, j'ai pas spécialement de connaissances sur ces points précis là, et aussi parce que j'ai la chance d'avoir un manager, Tarafa, qui gère aussi un peu ces trucs là.
Voilà, il viendra nous voir bientôt.
Salut Tarafa. Et donc ouais, je pense t'as toujours besoin d'avoir conscience de quoi tu parles, et pas te juste te laisser porter par le truc. Mais non, en tout cas, moi, je me suis toujours senti bien entouré par Record Makers, par Tarafa aussi, et bien conseillé un peu sur toutes ces questions là, quoi.
Donc manager, label. Pour ce qui est des dates, vous avez déjà réfléchi à comment
Ça pareil, c'est toujours un peu le truc où moi j'ai pas de booker, j'ai pas de tourneur officiel pour mon projet pour l'instant. Donc on cherche, quoi, un peu à trouver un entourage pour ça, et puis ça nous empêche pas aussi d'organiser quand même des concerts, et puis d'avoir quand même des concerts invités par des copains, par des programmateurs ici et là, mais c'est sûr que l'aspect booker, c'est toujours mieux. Enfin, ça permet de pousser aussi plus le projet, puis de jouer à des endroits auxquels t'aurais pas forcément pensé au départ. Donc
là, on arrive dans la saison des festoches. Là, ça va recommencer. T'as déjà booké des dates, t'as des trucs de prévu cet été?
Non, j'ai pas de trucs. J'ai un concert en Corse fin juin. Dans un festival organisé par des copains, mais non c'est toujours un peu ça. Mais en fait, en vrai, je pense que sur mon projet aussi, il y a un truc qui est peut-être un peu difficile pour des tourneurs de se projeter.
Et parce que 7 ans entre l'EP et l'album,
c'est regrettable et tout, mais comme si c'est un projet un peu hybride aussi, où le disque est assez pop, mais le live que je fais est assez club d'une certaine manière. Enfin, pour le coup, le live que j'ai monté pour l'occasion, il est très club, quoi. Enfin, c'est une espèce de,
on le ressent dans l'album,
remix un peu de tous les morceaux du disque, plus d'autres choses, plus des bouts de remix que j'ai fait aussi, pour en faire un truc où genre c'est du oui, enfin, c'est pas jouer un morceau puis applause puis jouer un morceau. Enfin, c'est vraiment un live club pour danser, quoi. Enfin, pas que, mais donc oui, nous, je pense que c'est pas forcément évident pour un tourneur, pour un booker, de se projeter là-dedans, mais faut y aller un moment, quoi.
C'est dans la même lignée, la promotion, faire parler du disque, c'est aussi une forme de défi avec ta musique, à ton sens? Tu dis que c'est pas toujours facile à défendre cette diversité, etc. Et de faire en sorte qu'il soit passé le plus possible en radio, que des médias te reçoivent, etc. C'est un truc aussi, t'es impliqué déjà dans cette...
C'est pareil, c'est toujours un peu impliqué. En même temps, il y a une agence de promo qui travaille aussi sur le truc. Et donc, oui, j'ai l'impression que c'est pas mon sujet, tu vois, favori, mais c'est important. Enfin, genre, je suis ce qui se passe, et je suis le truc, et je suis toujours ravi de parler de mon disque. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai pas les leviers pour décrocher une interview, pour un machin, enfin, tu vois, à part un entourage, des copains, des trucs où tu peux toujours faire ça, mais j'ai pas ces leviers là, moi.
On parle souvent avec les artistes, justement, de tout ce qui concerne la présence sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu délègues ça? Est-ce que t'es conscient que t'as besoin de faire ça?
C'est pas délégué. Enfin, genre, oui, je m'occupe de... c'est surtout Instagram, en vrai, hein, tu vois, qui... Mais
c'est un truc que t'apprécies faire, c'est.
Je le fais. Après, je pense que j'ai pas cette culture là, enfin constamment tu vois alimenter les réseaux sociaux. Je le fais et aussi parce qu'on a, tu vois, on a développé ce petit personnage et je trouve ça marrant de le faire justement avec ce petit personnage, mais c'est d'autant plus compliqué parce que le contenu est pas forcément évident, immédiat à produire, tu vois. Enfin, c'est comme l'idée, c'est d'incarner ce petit bonhomme là,
du coup faut le mettre téléphone, voilà, et caméra selfie, et c'est parti quoi.
C'est ça, ouais. Donc oui, je le fais, mais c'est pas le truc que je préfère faire, quoi.
Ouais. Okay. Oui, tu t'inscris pas dans ce fameux truc. Tu sais, on parle parfois d'artiste entrepreneur entre guillemets, d'artiste qui vraiment prend en main sa communication, puis tous les aspects limites de son métier. Ce qui a toujours des limites en réalité. Il faut être entouré en général, mais
bien sûr.
Mais certains en tout cas se sentent plus à l'aise.
Voilà, il y a des gens pour qui c'est plus naturel. Ouais, ils ont les réflexes. Ouais. Toi, effectivement, le fait de te mettre derrière un avatar, du coup, ça.
Ça complique de fait un peu le truc, quoi. Et puis au final, moi, je c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai envie de, enfin,
que la musique soit,
oui, je sais pas, devant, de, tu vois, de faire la musique pour la musique et de pas avoir besoin de passer par me mettre en scène moi dans une vie quotidienne ou dans un truc pour défendre ma musique, quoi.
Bah en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès avec cet album et avec la suite, parce que ça serait mérité.
Si on peut éviter d'avoir 7 ans d'attente entre
cet album et le projet. Oui, ça peut être pas mal. Je pense qu'il a compris, il sait. C'est vrai.
Non, puis alors, je vais plus vite pour faire des trucs comme ça.
Est-ce qu'il y a des futurs projets d'ailleurs dont tu peux parler, ou là c'est vraiment, on se concentre d'abord sur défendre cet album, on verra la suite.
Je pense assez vite. Je pense que j'aurai un EP fait assez vite, je pense. Okay. Enfin, en tout cas, j'ai déjà une petite collection de morceaux avec une idée un peu de vers là où je veux aller. Ouais. Truc plus un peu plus club dans l'idée. Et
accompagner des gens peut-être, t'as envie encore de continuer ou
sur scène,
ou...
tu veux dire de
alors, d'une part sur scène et même de produire, pourquoi pas de...
si carrément. Je continue là, je travaille en ce moment avec un groupe qui s'appelle les Casablanca Drivers, qui on est en train de finir une petite collection de morceaux ensemble qui sont très très cool, et puis voilà, d'autres trucs à venir. Donc ouais, c'est ça. Enfin, on continue un peu dans le travail perso, le travail studio, et de mélanger un peu tout ça.
Ok, et donc le solo ne prend pas le dessus sur tout le reste. Tu te dis pas, vas-y, là maintenant c'est que moi, c'est ce qui compte.
C'est mené de fond.
Toi, t'as envie d'avoir une vie de musicien multiple, en fait.
Ouais, tout en donnant de l'importance à ce que je fais en tant que NIT. Mais pour moi, ça existe que si je travaille avec d'autres gens aussi, quoi. Je sais pas si j'espère ou pas. Peut-être qu'un jour, je sais pas, j'aurai pas le temps de faire d'autres choses parce que trop pris par NIT. Mais en vrai, non. Enfin, je crois que je préférerais de pouvoir en même temps être très pris par NIT, mais quand même toujours trouver l'occasion de faire des collaborations et travailler avec d'autres gens et pour d'autres gens, parce que c'est comme ça que ça enrichit le petit NIT, quoi.
Mais du coup, maintenant qu'il y a ce personnage qui porte ton nom,
tu peux mettre n'importe qui derrière.
C'est vrai que je pourrais prêter,
à l'inverse, quand maintenant tu te retrouves sur scène avec Juliette Armanet, t'es toujours NIT ou t'es Corentin, tu vois?
Je pense qu'il y a un moment où j'ai voulu un peu le NIT, c'était une manière de séparer un peu les deux, de dire il y avait mon état civil, Corentin Gardin, du coup c'est le musicien de scène machin, et NIT c'est mon projet perso. Mais au final j'ai plus envie de cette séparation. Enfin, pour moi, c'est un projet commun. Enfin, comme je disais tout à l'heure, du coup, comme tout se s'interaliente et se complète.
On va bientôt te voir sur scène derrière Juliette Armanet avec ton personnage en mousse.
Et en vrai,
avec des
super promo, super idée de promo. T'arrives en costumé avec ton personnage.
Là, il faut se mettre en haine, hein, c'est compliqué.
Non, parce que pour moi, du coup, c'est presque le NIT, il existe par lui-même. Et moi, j'existe par moi-même, mais on sait pas qui a créé l'autre, quoi. Tu vois, c'est genre, moi, je peux pas me déguiser en NIT. Enfin, si je pourrais, ou NIT pourrait se déguiser en Corentin Gardin, mais je pourrais, les deux sont deux trucs qui se mélangent, mais qui sont, on sait pas lequel a donné naissance à l'autre.
Il y a des pistes.
Discuter avec Daz après. il va te faire un plan promo d'enfer.
On a des idées, ça va être incroyable. Ça va être incroyable.
Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment de parler avec toi, ton expérience, de ta musique aussi. Et tu sais qu'il y a une tradition quand même dans ce podcast, avant de se quitter,
la seule course
avec les recommandations.
Les recommandations, bien sûr.
Alors, est-ce que t'as déjà une idée, toi, de ta reco?
Je devais passer derrière toi. Donc
ah, on fait comme ça? Ouais, vas-y.
Ah ouais.
Double reco, parce que je t'ai fait écouter un truc, et on te laissera la main après, Corentin.
Bien sûr.
Réfléchis à ta...
un classique qui m'a fait écouter. J'ai dit, tiens.
Je t'ai fait écouter un truc, tu m'as dit, bah, je connais ça.
Bah, évidemment.
Et le morceau, je l'ai découvert en plus récemment, c'est ça qui est terrible. Je voyais même pas avec le sample, etc.
C'est ça qui est infernal.
Et l'album est incroyable. L'album s'appelle Nard de Bernard Wright. C'est sorti en 1981. Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle Abo Glabo Tribin.
Tribin, ouais.
Tribin,
ouais.
Excuse-moi, pardon.
Parce qu'il n'y a pas de B, donc il y a.
Très bien.
Donc,
Abo Glabo Tribin.
Tribin.
Oh là là, c'est dur à dire. En tout cas, c'est un bête de morceau.
Évidemment.
Et c'est parti.
Dans la veine des Bootsy Collins,
ouais,
un peu barré.
Il y a un peu un délire P-Funk dans la voix, un peu nasillarde, un peu délirante.
Avec des effets et tout, ouais. Ouais.
Et toi, ça t'a fait penser tout de suite à quelque chose?
Ah bah là, c'est même plus du sang. C'est là que tu te dis quand même, Dr. Dre, mais quel fumier celui-là, putain. Zéro travail.
C'est
évidemment un sample qui se retrouve sur un morceau qui s'appelle G's and Hustlers sur Doggy Style, l'album de Snoop de 93,
ouais.
Produit par Dr. Dre. Et il a tout repris, y compris la boîte à musique. Alors eux, ils le mettent dans une petite interlude, comme s'ils étaient à l'école.
Okay.
Et comme si le professeur demandait à Snoop ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Et donc, ses camarades répondent policier, pompier. Et puis lui, bon, bah, il répond...
Écoute ce qu'il dit.
Ouais, vas-y, c'est parti.
Good morning, boys and girls. I'm your substitute teacher. My name is Mr. Butworth. The topic for today is... what you would like to be when you grow up.
Donc là, il va leur poser la question. Voilà. J'avance un peu pour la réponse de Snoop.
Be a motherfucking hustler. You better ask somebody.
C'est Snoop. Hein. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers, now back to the G's. Freeze, at ease. Now let me drop some more of them keys. It's 199 Trey, so let me just play. It's Snoop Dogg, I'm on the mic, I'm back with Dr. Dre. But this time I'ma hit your ass with a touch to leave motherfuckers in the days fucked up. So sit back, relax, New Jacks get smacked. It's Snoop Doggy Dogg, I'm at the comme
top of the stack.
Avec les prods de Snoop, donc déjà son flow là, 93, et le mec il met à l'amende des rappeurs d'aujourd'hui parce que le flow est toujours actuel. Et surtout, la question qu'on se pose avec toutes ces prods là, californiennes de cette année, de ces années là, 90, c'est quel est le niveau de sample et quel est le niveau de on rejoue live avec d'autres instrumentistes et on refait le truc quoi.
Voilà, c'est 99% sample, mais par contre, t'as remarqué un truc, tu sais, il y a le tododum, tchang, et là
il
est encore plaqué.
Plus fort.
Et,
en fait,
et surtout, il est réharmonisé. Plus, je sais pas si c'est en mode mineur, en tout dans le genre, mais pour donner le côté plus inquiétant que dans l'original, il y a une couche rajoutée, je sais pas si vous l'avez entendu.
Je sais pas.
C'est, bref.
Bah, en fait, le truc, c'est vraiment, moi, je me demande, même s'ils ont pas repris, juste, ils ont repris la partoche, mais ils l'ont refait, quoi.
Ah, tu penses?
Ouais, parce que moi, je trouve que la version de Snoop, elle a plus de patates.
Ouais, mais ça peut être juste de l'effet. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes timbres, etc., que ça pourrait être purement samplé. Peut-être pas, j'en sais rien.
Après, ils ont peut-être repris les mecs de Bernard Wright.
C'est possible. Hein.
Ouais, c'est possible, ils avaient les Icos. Parce que sur toute cette période-là, les mecs qui sont accompagnés par... en fait,
qui rejouaient beaucoup.
Tout le son de Dr. Dre, de Snoop et de tous les autres, c'était des bassistes incroyables, des saxophonistes, des claviers. Et en fait, c'était des mecs des dramatiques, du funk, tu vois. Donc, soul funk, tout ça, qui étaient en studio avec eux. En fait, c'est leurs oncles, leurs... leurs potes.
Et bah, si parmi nos auditeurs et nos spectateurs, des gens qui maîtrisent le travail de sampling entre les deux morceaux, première fois qu'on fait une reco comme ça un peu duo,
ouais,
pas mal,
c'est un,
à explorer peut-être. expliquez-nous comment ils ont fait. Et surtout, dites-moi si je délire complètement, mais là, cet accord, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu réharmonisé, il y a un truc particulier. Bref. Corentin, ta reco. Alors, il est parti ailleurs.
Non, moi je voulais faire écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Super Senft.
Très bien.
Alors,
c'est allemand.
C'est allemand.
Ouais, c'est allemand.
Alors, comment ça s'écrit?
Super, donc avec un
S. Super et S-E-M-P-F-F-T.
S-E-M-P-F-F-T. Très bien, j'ai trouvé.
Tu l'as, et un morceau qui s'appelle Let's Beam It Up.
Let's Beam Him Up. Eh bien, je l'ai trouvé incroyable.
Formidable.
Tu veux nous dire quelque chose, ouais, un mot
bah,
sur ce morceau?
C'est un morceau que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et globalement, je suis tombé sur cet album-là, là, de ce groupe Super Sam. C'est un album qui date de 79, je crois.
Ah.
Et j'ai été vraiment scotché par le son, enfin, la production et les arrangements et tout. C'est complètement.
Donc, c'est allemand des années 70?
Ouais. En tout cas, ce disque-là est de 79. Et à mon avis, j'ai pas réussi trop à trouver d'où ils venaient, ces gars. Je crois que c'est deux gars. Et je pense que ça devait être des musiciens de studio, de machin, de session. Mmh. Et qui faisaient ce groupe-là un peu pour s'amuser. Parce que c'est hyper créatif et tout dans l'album. Il y a plein de trucs hyper différents. Et voilà, c'est, et le
Let's
son
beam
est,
him
est,
up.
Est super.
Let's beam him up, Scotty.
Let's go. Incroyable morceau.
Ça c'est incroyable. Et tout l'album, il y a plein de trucs. Je trouve le morceau d'après sur l'album, c'est une espèce de balade folk guitare où le mec il chante hyper bien, c'est hyper bien composé. Il y a des il y a des sons d'ambiance de clocher, de ruisseau et tout. Enfin c'est ouf.
Ça commence comme une espèce de Kraftwerk sous stéroïdes.
Ouais c'est ça. Ouais.
Un peu survitaminé. Puis après ça devient limite un peu pas soul, mais tu vois un peu plus.
Bah avec le chant et tout, le mec il chante trop bien et tout, c'est ouf. Quoi.
C'est très étonnant.
Ouais. Tu vois la beauté des plateformes, elles sont critiquables. Mais à quel moment tu te retrouves avec un truc qui s'appelle Roboterwerk de Super Senft.
En plus, ils sont délirants, Super Senft, là, parce que leur logo, il reprend le logo de Superman.
Ouais, mais la pochette est incroyable aussi.
La pochette aussi, elle est barrée, T'es tombé là-dessus au pif.
Ouais, parce qu'au final, je sais pas, j'en ai parlé à plein de gens et personne connaît ce genre. Mais tu fais, je sais pas, les chiffres et tout, genre, c'est très peu écouté, alors que je trouve ça assez... hyper original, hyper incroyable pour un truc de cette époque-là.
Eux, ils sont peu écoutés, ils ont 10 000 auditeurs par mois. Par contre, celui qu'on vient d'écouter, par exemple, c'est un peu un de leurs tubes, en tout cas. Il a 300 000 écoutes quand même.
J'en ai fait la moitié, je crois.
Eh bien, écoutez, merci encore, Nit, Corentin.
Ben, merci
c'est
beaucoup.
Trop cool.
Merci beaucoup à vous.
Merci, Daz.
Un plaisir.
Ouais, grave plaisir.
Musique, encore une fois, avec
absolument.
Des artistes.
Oui.
La part belle aux artistes.
Ben, c'est un peu la saison des artistes. Écoute, Daz, on va faire bientôt, je pense, un épisode quand même peut-être un peu plus métier ou un sujet.
Tu parlais de Tarafa qu'on allait recevoir.
Oui, et ben, tu vois, déjà, par exemple, effectivement, on va parler de musique de jeux vidéo. Et de ce business qui se développe notamment, et peut-être avec un monsieur qui travaille pour Ubisoft. C'est pas impossible qu'on reçoive les deux en même temps, tu vois.
La France. La France.
Un truc un peu stylé. Merci évidemment à François aussi pour le montage, Flav, Sam, Iris pour la technique, la bouclette.
Bien sûr.
Vous savez. Merci Thoman. Est-ce que tu achètes parfois chez Thoman, Corentin?
Ouais, évidemment.
Voilà, voilà.
Y compris des synthés des années 80. Eh ouais, parce qu'il y a tout chez Thoman, je sais pas.
Il y a pas d'occasion. Mais ils font des reissues, des synthés des années 80. Des
fois, ouais, vois, avec des prix des années 2000. Et ça, c'est génial.
Très bien.
Merci, bien sûr.
Merci, Thoman.
Absolument.
On se retrouve, nous, dans 15 jours, évidemment, le mercredi, puisque c'est le mercredi dorénavant d'Az.
C'est le mercredi.
On le sait.
C'est le mercredi.
Et puis, ça sera forcément bien.
Ciao.
Ciao.